Genre, elle défilait dans les couloirs de l'hôpital avec sa perche quand elle avait l'énergie. Enfin, genre, vraiment, elle était toujours très solaire, très drôle. Et enfin, c'était vraiment elle qui nous rassurait. Enfin, vous voyez, moi, je garde le moral, donc vous aussi, quoi. Et en fait, toi, tu vois ta petite sœur comme ça, et au bord des larmes, parce qu'elle en peut plus de souffrir. Et en fait, tu peux rien faire. Pour moi, ma sœur, c'était vraiment ma star. C'est vraiment, genre, elle allait briller, tu vois. Donc, je me suis dit, genre, c'est pas parce que son cancer, bah, il a fait ça que, genre, elle va pas briller, quoi. Donc, du coup, voilà, c'était important pour moi qu'elle soit l'héroïne d'un roman, parce que écrire, c'est ce que je sais faire de mieux depuis que je suis petite. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc même si bah, elle est plus là et moi un jour je serai plus là et tout, bah, au moins le livre il va rester.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi, mais ce qui est certain c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Élise.
Bonjour Capucine.
Comment est-ce que ça va aujourd'hui pour toi ?
Ça va, merci. Et toi ?
Bah ça va. Je suis trop contente de te voir. Je suis hyper contente que tu m'accueilles chez toi. C'est très gentil. Merci. J'étais vraiment... Je voulais absolument qu'on se voie. Et au final, ça a pu se faire parce que tu m'as accueillie chez toi. Donc merci.
Bah, avec c'est grand super plaisir. Gentil. Moi, tu fermes les yeux sur le bazar.
Ça non, franchement, ça va. C'est vraiment pas le bazar. Hein. Ou alors, moi aussi, c'est tout le temps bazar chez moi si c'est comme ça. Non, vraiment, c'est très bien. Du coup, moi, je te connais un petit peu parce que je te suis sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup, beaucoup ton compte, et d'ailleurs tu as un podcast aussi, je mettrai tout ça dans la barre d'infos, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Oui, donc du coup bah, moi c'est Élise Giraudot, j'ai 29 ans, 30 ans cette année, je suis ingénieure en informatique et autrice, j'aime aussi faire du sport, j'en fais 4 à 5 fois par semaine, et voilà, je crois que c'est à peu près tout
c'est
pour moi.
C'est déjà pas mal. Déjà, une vie bien occupée, oui. On peut le dire. Du coup, bah, je te l'avais dit en off, mais pour que les personnes qui écoutent le sachent, moi, en fait, je t'ai découverte d'abord via le profil de ta petite sœur, justement. J'avais commencé à suivre, je ne sais plus exactement quand, mais quand elle a commencé à sensibiliser, en tout cas, sur son cancer. Et puis bah justement là, avant l'épisode j'étais remontée parce que j'avais déjà un peu discuté avec elle et le premier message que je lui avais envoyé c'était le 13 janvier 2022 donc ça fait au moins depuis là que je la suivais et c'est vrai que je m'étais dit que j'aimerais bien l'interviewer un jour pour qu'elle puisse sensibiliser sur le sujet et au final du coup bah, c'est toi qui vas le faire à sa place. Donc je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui pour porter sa voix. Donc du coup, vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, on va parler d'un sujet qui est difficile mais qui est très important, qui est donc l'histoire de ta petite sœur qui est décédée d'un cancer de l'ovaire. On va parler aussi du coup de, d'elle, bien sûr, de la manière dont tu l'as accompagnée, parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, du rôle justement des aidants, des proches, des personnes malades. Et de ton livre qui va sortir très bientôt, qui a permis de la transformer en héroïne de roman. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta relation avec ta petite sœur, de votre enfance, dans quel contexte vous avez grandi
Ouais, bah du coup, donc moi je suis née en 1994, ma sœur est née en 2000, donc on avait 5 ans d'écart à peu près. Du coup, quand j'ai appris que j'allais avoir une petite sœur, j'ai fait une crise de nerfs. je me suis cachée dans la chambre de mes parents, je voulais plus en sortir. Du coup, ma mère, elle m'a emmenée chez le pédiatre. Après, elle m'a dit... Enfin, le pédiatre, après, il a dit, bon, c'est bon, elle a verbalisé, tout va bien. du coup, quand ma sœur est née, j'étais un peu sceptique et tout sur ce petit être qui venait dans la famille. Mais du coup, après, c'est bon. Enfin, je m'occupais d'elle, voilà, comme une grande sœur, mais quand même, qui était toujours une enfant. Donc, voilà. On a grandi ensemble, on s'entendait bien, on était complices.
Ouais.
Nos parents ne sont pas divorcés, donc du coup, on avait aussi une enfance... bon, après, c'est parce que les parents ne sont pas divorcés qu'on a forcément une enfance choyée, mais c'était le cas. Oui. On avait une enfance, choyée, avec ma notre mère qui était prof de maths. Enfin, du coup, c'était quand même important, les études et tout. Donc, du coup, sur ça, elle était assez stricte.
Ouais.
Après, ma sœur a fait sa crise d'ado, qui a été assez... Voilà,
D'accord.
genre assez dur. Moi, j'étais en prépa maths sup maths spé, et c'est vrai que j'étais un peu dans mon monde, dans mes études,
Dans tes
vraiment.
chiffres.
Voilà, c'est ça. Puis j'ai toujours été un peu l'intello et tout, donc je voulais absolument bien réussir mes études. Donc j'avais un peu mis des œillères, parce qu'il se passait plein de choses à la maison dont je ne me suis pas rendu compte et dont on a parlé après. Et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, la relation un peu où moi, quand j'étais enfant, je surveillais beaucoup ma sœur. Genre, par exemple, quand on était c'est dans les fêtes, des mariages et tout, mes parents, ils nous surveillaient. Et moi, je surveillais ma sœur aussi. Genre, je
Ouais.
vérifiais tout le temps où elle était et tout. Et pareil, bah, genre, quand je recevais mes copines à la maison, c'était hors de question que ma sœur reste pas avec nous. Genre, toujours, elle restait, je faisais en sorte qu'elle reste avec nous, même si voilà, elle avait 5 ans de moins. Donc, bah... Voilà, et en fait, pendant sa crise d'ado, ça s'est vraiment inversé. En mode, c'est elle qui me conseillait, parce que moi, j'étais une véritable people pleaser. Donc, je suis toujours, mais du coup, elle, pas du tout. Donc, elle me dit, non, mais là, il faut que tu te rebelles. Là, il ou elle se sert de toi, là, machin.
Ouais.
Du coup, c'était plus elle qui me donnait des conseils que l'inverse. Et après, je me suis mis avec un mec qu'elle aimait pas du tout. Et là, c'est elle où elle s'est vraiment découverte être très coquette, genre bien aimer bien s'habiller, être à la pointe de la mode et tout. Et moi, en fait, j'étais un peu pas, enfin, j'étais un peu de plus en plus déprimée dans ma relation, donc je prenais de moins en moins soin de moi. Donc, il y a aussi encore un fossé qui s'est creusé sur ça, parce qu'elle comprenait pas que je le tèche pas, en fait. Et du coup, après, quand je l'étais, on s'est plus rapprochés. Du coup, là, ben, je me disais, ah ben tiens, j'aimerais bien plus plaire et tout. Donc, elle me donnait des conseils, elle me prenait en photo, elle m'aidait à faire les boutiques, un truc comme ça. Et on était vraiment complices sur le fait de, ben, moi, je lui fais des photos pour son Insta, les réseaux sociaux. Puis on rigolait tout le temps de tout, de rien, on se moquait de nos parents, enfin, comme des sœurs, quoi. Voilà, en gros, notre relation depuis l'enfance.
Et c'était quoi sa personnalité à Louise? Qu'est-ce qu'elle aimait faire dans la vie?
Bah, du coup, vraiment, vraiment très drôle. Vraiment, elle est hyper drôle. Genre, enfin, en fait, elle avait deux aspects. Genre, soit elle était hyper énervée, genre vraiment hyper impulsive, soit vraiment, genre, quand elle était dans un mood normal, genre vraiment très drôle, genre toujours la bonne phrase au bon moment, le bon mot qui fait rire. Du coup, très solaire. Elle apporte vraiment la gaieté à chaque fois, et ça, c'était un truc que j'admirais beaucoup, parce que j'avais pas cette capacité à, enfin, j'ai toujours pas d'ailleurs cette capacité à faire rire au bon moment. Et puis elle imitait très bien les gens, donc du coup, enfin, trop drôle, enfin, tu revoyais vraiment les gens quand elle les imitait. Après, du coup, bah, très coquette, elle aimait beaucoup, bah, le monde des Miss, puisqu'elle faisait les élections. Du coup, elle avait été élue seconde dauphine de Miss Médoc pour sa première année de participation. Donc, elle avait eu beaucoup de compliments du jury pour une première. C'était vraiment bien et tout. Elle aimait beaucoup les enfants. Donc ça, elle voulait aussi travailler avec les enfants. Elle était en master pour devenir professeure des écoles. Et donc, beaucoup les bébés. Elle aimait beaucoup le bassin d'Arcachon aussi. C'était vraiment son endroit où elle adorait aller avec son petit copain, se ressourcer et tout ça. Voilà, c'est comme ça que je la décrirais. Puis très, voilà, enfin, elle passait pas par quatre chemins, quoi. Genre, quand elle avait un
Ouais,
truc
elle
à te
était
le dire,
franche,
ouais, voilà, elle te le disait dans ta face, et après tu faisais ce que tu pouvais avec cette information. Voilà.
direct. Ok, je vois. Bah merci, comme ça nous permet un peu de la connaître. Et ensuite, comment est-ce que la maladie, du coup, est arrivée dans votre vie? Déjà, quels symptômes ont alerté Louise sur le fait qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas?
Bah, alors, en fait, elle était hyper fatiguée depuis quelque temps. C'était bizarre. Mais bon, on ne s'inquiétait pas plus que ça, parce que ça arrive, tu vois, d'être fatiguée. Et elle avait plus trop d'appétit non plus. Et ça, c'était bizarre, parce qu'elle était très gourmande aussi. Genre, elle adorait manger plein de chocolat. Ma sœur avait cette faculté de manger sans vraiment prendre un gramme. Donc,
Ah oui, je
elle
vois.
mangeait tout le temps du chocolat et tout. Et enfin, donc, elle adorait le chocolat. Et là, elle avait même plus envie de chocolat. Donc, c'était un peu étrange. Et elle a commencé vraiment, le premier signe, c'était qu'elle avait fait un malaise. Et ça, c'était vraiment hyper bizarre, parce que moi, je suis vraiment la meuf qui fait des malaises tout le temps, et ma sœur, pas du tout. Donc, bon, ça nous avait un peu surpris. Mais pareil, on ne pensait pas que c'était vraiment grave en soi. Et par contre, premier signe, vraiment, c'est qu'elle avait eu deux épisodes où elle avait des énormes douleurs au ventre, au dos, qu'elle était genre verte, enfin blanche-verte, vraiment une couleur bizarre de sa peau au niveau du visage, et qu'elle pouvait plus se lever, qu'elle vomissait. Et donc le premier coup, bon bah ça, enfin le médecin il avait dit que c'était soit d'origine gastrique, soit d'origine gynécologique. Donc on avait pris rendez-vous pour, enfin le premier rendez-vous qui était genre 1 mois et demi après, pour faire un examen gynécologique. Et en fait entre-temps elle a refait un gros épisode comme ça. Donc du coup là on est directement parti aux urgences. Et en fait là ils ont passé donc une écho. Ils ont vu qu'elle avait une grosse masse accrochée à son ovaire qui s'était entortillée sur elle-même. Genre il y avait deux torsions. Et en fait, du coup, ils ont pensé directement à un kyste parce que c'est assez courant en fait chez les jeunes filles d'avoir ça et on savait pas. Et donc, du coup, ils l'ont opéré. Et en fait, à l'aspect, ça paraissait pas cancéreux parce que des fois, tu vois directement, enfin, d'après ce que j'ai compris, que c'est cancéreux. Et du coup, ils ont dit ouais, c'est un kyste et tout. Ils l'ont opéré, ils l'ont en urgence. Donc, bon, c'était quand même beaucoup de stress, mais on s'est dit ok, bah, c'est terminé. Et en fait, c'est 1 mois après qu'il y a eu les résultats de la biopsie. Et en fait, c'était même pas. Enfin, ça avait pris un peu plus de temps que prévu parce que c'est une personne, enfin, une anapath, donc c'est les gens qui font les biopsies, qui a eu un doute, en fait, parce que vraiment, à l'aspect, ça paraissait pas du tout cancéreux. Genre, c'est juste, je sais pas comment ils font leurs analyses, mais elle s'est dit, bon, c'est bizarre. Et en fait, c'est ça, grâce à cette personne qui a eu des analyses plus poussées et que là, on a su, enfin, que c'est le verdict est venu, que c'était un cancer des ovaires.
Ok, et comment est-ce que l'annonce a été reçue? J'imagine que ça a été un choc, évidemment, surtout aussi jeune. Enfin, je ne sais pas quel âge elle avait à ce moment-là.
21.
Ouais, 21 ans. Donc, ça a été quoi sa réaction à elle?
Bah, en fait, elle est, enfin, de ce qu'elle m'a dit, hein, que c'était très un peu flou, genre un peu comme dans du coton, un peu je me rends pas compte, puis je m'attendais pas à ce que le mot cancer sorte. Apparemment, elle a réalisé quand, parce qu'elle était au rendez-vous avec ma mère, quand notre mère s'est mise à pleurer. Et en fait, ma mère, elle avait déjà des suspicions que c'était plus grave qu'un kyste, mais elle ne nous l'avait pas dit, elle nous l'a dit après. Donc voilà, et du coup, bah, elle entendait le mot cancer, enfin, genre, c'était vraiment voilà, enfin, très bizarre. Elle savait que c'était grave parce que ma mère pleurait, mais en même temps, les médecins avaient dit, bah, en fait, c'est pris à temps, c'est un cancer, là, il est au stade 1, donc il n'y a pas de. Enfin, c'est pas qu'il faut pas paniquer, mais en gros, ça va aller. On va te retirer ton ovaire gauche et ta trompe gauche. Et c'est bon, ce sera terminé. Tu seras guérie. Et voilà quoi. Enfin, donc, un peu enfin, voilà, bizarre, mais en même temps, bon, ça va aller quoi. Enfin, c'est bon, je vais me faire opérer et c'est bon.
Et toi et tes parents, du coup, ça a été quoi vos réactions?
Bah, je sais que donc moi j'étais à Paris, elle était à Bordeaux, du coup elle est sortie de là. Je sais pas dans quel ordre elle a appelé qui, mais je sais qu'elle a appelé mon père, son copain et moi. Et moi en fait, enfin on rigolait vraiment de tout, on faisait tout le temps de l'humour et tout. Donc en fait son kyste, je l'avais renommé, je l'avais appelé Kisti. Vraiment j'étais à des lieues de penser que ça allait être grave, hein, enfin, pour dire. Du coup je lui avais envoyé un message, je lui avais dit alors les résultats de Kisti, parce que du coup je savais que elle avait un rendez-vous de suivi pour aussi ses cicatrices, tout ça ce jour-là. Et en fait j'étais à la salle de sport et du coup elle m'envoie, elle me dit est-ce que je peux t'appeler? Du coup j'étais là, c'est bizarre. Mais vraiment toujours pas en train de penser que c'était un truc grave quoi. Du coup je l'appelle dans les vestiaires et là elle me dit non mais en fait elle me dit mais fais ta séance et tout, je te dirai après et tout. Je dis bah non, tu me dis-moi maintenant enfin. Et là elle me dit non mais en fait c'est cancéreux, j'ai un cancer. Du coup j'étais là quoi, enfin genre vraiment je tombe des nues, genre enfin c'est pour dire j'ai même enfin je m'en rappelle en fait du moment, mais je me rappelle même plus trop des émotions, des réactions. Enfin vraiment j'y croyais pas. Mais en fait, moi, depuis que je suis petite, je me dis toujours que ma famille, elle était, enfin, était sous une bonne étoile. Donc, je me suis dit, OK, bon, là, il y a le cancer, mais donc, elle m'explique, stade 1, machin, ça va être pris à temps. Je me dis, non, mais c'est bon, en fait, enfin, elle va se faire opérer et puis tout va repartir comme avant parce que dans ma famille, voilà, tout va toujours bien en soi, même s'il y a des tensions, même s'il y a des disputes.
Oui,
Enfin,
comme dans
voilà,
toutes
mais
les
genre,
familles, mais ça
ouais,
va,
voilà,
quoi.
genre, c'est bon, enfin, il va rien se passer de grave, quoi. Mais du coup, bon, j'ai raccroché, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ma séance? Est-ce que je prends de chez moi pleurer? Parce que le mot cancer fait peur, quoi. Donc, j'étais là, bon, finalement, je me suis dit, je vais faire ma séance. Puis après, je suis rentrée chez moi. Et en fait, après, j'ai pris des billets. Et le lendemain, je suis partie à Bordeaux direct. Parce que même si, soi-disant, ça allait, enfin, J'étais là en mode, bah, ma sœur a un cancer, quoi. Enfin, je vais pas rester loin, ça...
Ouais.
Voilà, quoi.
Bah ouais, c'est hyper choquant, surtout à 21 ans, tu vois,
Oui,
tu
bah
enfin, c'est
oui.
pas un truc auquel tu penses
Ah non, pas
du
du
tout.
tout, ouais.
Et pour tes parents, ça a été comment? Parce que j'imagine aussi que ça
Bah...
a dû être super choquant.
Ouais. Bah, ma mère, comme je dis, elle avait déjà pensé. Voilà, enfin, après, elle essayait d'accompagner au mieux Louise. Enfin, vraiment, ça a été les bras, le cœur, les poumons, enfin, tout pendant toute la maladie. Mais ma mère, enfin, je sais pas, sur le moment, vraiment, je sais pas exactement, je sais juste que du coup, elle a pleuré, mais je sais pas vraiment ce qu'elle pensait. Après, ma mère, elle est de nature très pessimiste, donc du coup,
Ouais.
elle est, enfin, je pense pendant toute la maladie, elle voulait pas trop se faire d'espoir, même si je pense qu'elle a eu quand même des moments où elle y croyait, mais elle était plus dans le pessimisme, et mon père plus dans le déni, en mode oui, enfin, il savait ce qui se passait, il était là pour ma sœur si elle avait besoin de quoi que ce soit, mais je pense qu'il vivait plus en mode c'est un peu sur le, enfin, même pas en mode c'est sur le côté parce que c'est partout en fait le cancer, mais un peu en mode bon, on continue de vivre comme si
Ouais,
rien
pas trop envie d'y
n'était.
penser.
Ouais, voilà, c'est
Ouais.
ça.
Ok. Et t'as été en colère ou pas? Parce que, enfin, je pense que
Ouais.
c'est une émotion qu'on peut
Ah
ressentir à ce
oui.
moment-là, ouais.
Ouais, non, mais toujours. Et puis, enfin, en fait, enfin, je le suis toujours, mais moins. Et en fait, du coup, ça, c'est bon, ça, c'est plus sur le après. Mais genre, c'est vraiment chiant de sentir que tes émotions, avec le temps, se dissipent. Et enfin, ça m'énerve enfin, beaucoup de culpabilité aussi. Mais du
Ok.
coup, la colère, ouais, vraiment. Mais pendant toute la maladie, j'étais hyper en colère. J'étais en mode, pourquoi nous? Pourquoi ma sœur? Pourquoi pas moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Et puis dès que quelqu'un me disait un truc où il n'était pas à la hauteur, j'étais hyper en colère. Genre, j'ai jarté plein de gens de ma vie parce que dès qu'ils me faisaient un truc, genre ça allait pas et je n'avais pas le temps en fait ni l'énergie de mettre de l'énergie carrément dans ça. Enfin, j'étais en colère contre tout et tout le monde et tout le temps et tout le temps énervée. Voilà.
Ce qui peut se comprendre quand même. Je pense
Oui,
que
mais
c'est
bon,
tout à
enfin,
fait,
c'est
ouais, c'est une
pas.
émotion qui est normale à mon avis. Et après l'annonce, du coup, il s'est passé quoi? Ça a été quoi les différentes étapes maintenant qu'on sait, ok, Louise a un cancer, qu'est-ce qui
Ouais.
se passe?
Bah, en gros, elle devait se faire opérer. Donc, en fait, eux, les médecins, donc je parle en général, puisque je ne sais pas exactement là qui suivait quoi. C'est après où c'était un peu plus clair. Mais du coup, la gynécologue qui l'avait opérée en urgence pour le soi-disant kyste, elle nous a dit, bah, là, en fait, je vous mets en relation avec tel chirurgien. Vous allez le voir et vous allez. Enfin, il va vous expliquer, il y aura l'opération et tout. Et du coup, en fait, le cancer. Enfin, il faut savoir que la masse qui était accrochée à l'ovaire de ma sœur, elle faisait quand même 13 centimètres de diamètre, donc elle était quand même
Grosse quand même,
énorme.
ouais.
Et du coup, ils ont dit bon, mais en fait, c'est un cancer. Bon, là, il est gros, mais il est quand même à souche lente. Donc, le chirurgien lui a dit si tu veux être opéré en décembre, y a pas de souci parce qu'il va pas évoluer énormément puisque c'est tel type de cancer. Donc, je saurais pas dire lequel, mais voilà.
Ouais.
Et donc, si tu veux faire ton semestre, être tranquille et tout, et d'études, et après, tu te fais opérer à Noël, y a pas de problème, machin. Bon, ma sœur, elle a quand même dit je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, elle a pris la première date dispo, c'était le 8 octobre. Et à partir de là, genre, son état, enfin là, elle allait encore bien, si je puis dire. Et en fait, là, son état s'est dégradé, son ventre, il a commencé à gonfler, elle avait de plus en plus de douleurs, de plus en plus de problèmes gastriques et tout. Et nous, on ne comprenait pas. Et en fait, la veille ou l'avant-veille de l'opération, la secrétaire du médecin a appelé, elle a dit qu'en fait, le médecin ne serait pas dispo pour l'opérer, donc c'était décalé de 11 jours. Donc ce serait finalement le 19 octobre. Et là, les 11 jours, ça a été vraiment la dégringolade. Elle avait de plus en plus mal, elle n'arrivait plus à se lever de son lit, elle n'arrivait plus à aller en stage, elle n'arrivait plus à aller à l'école, elle mangeait plus rien. Enfin, c'était terrible de la voir comme ça dépérir à petit feu. Et bon, elle se disait, mais ok, bon, bah, enfin, je suis comme ça, mais le 19, je vais me faire opérer et ça va aller mieux, quoi. Et en fait, la veille au soir, donc le 18 au soir, bah, elle est partie aux urgences. Enfin, il y avait SOS médecin qui est venu, elle est partie aux urgences parce qu'elle avait plus de 42 fièvres, elle avait le ventre hyper gonflé, hyper douloureux. Et en fait, c'est parce que bah, son cancer, il s'était propagé partout. Enfin, c'était pas du tout un cancer à souche lente, c'était un cancer à
Ouais.
souche turbo. Et en fait, elle en avait partout dans le ventre, dans le péritoine. En fait, les cellules cancéreuses, elles émettent un liquide, en fait, ce qui s'appelle de l'acide. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'elle avait le ventre tout gonflé, comme rempli d'eau et tout ça. Et du coup, en fait, ils nous ont dit non, mais c'est inopérable là, genre, il y en a trop. Et du coup, en fait, il faut faire une chimio, quoi.
Mais du coup, il y a eu un mauvais diagnostic à la base, en fait,
Ouais,
quand
mais en
même.
fait, c'est leur faute et en même temps pas leur faute parce que c'est un cancer vraiment hyper rare, quoi.
Ouais.
Après, elle a été suivie à Paris et son oncologue, qui est quand même un professeur reconnu et très. Comment dire, très pertinent dans. Enfin, c'est vraiment. Il était incroyable, ce monsieur. Il avait fait remonter son dossier à des congrès quand il allait à Chicago, quand il faisait des congrès européens sur les cancers gynécologiques. Et en fait, vraiment. Bon, moi, je sais pas ce qu'il avait écrit dans le dossier, mais en gros, il nous a dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Enfin, ils savaient pas. Enfin, c'est pas leur faute en soi non plus. C'est vraiment que c'est un cancer hyper rare, quoi.
Ouais. Donc là, du coup, on était rendu en mi-octobre 2021, c'est ça?
Ouais.
Donc Louise peut pas être opérée. Donc là, qu'est-ce qui se passe
Du coup, on
ensuite?
lui dit qu'il faut déjà faire passer l'inflammation parce que du coup, elle avait tellement d'ascites et le fait qu'elle ait de la fièvre, c'était pas normal non plus. Donc, ça veut dire qu'elle avait en plus une bactérie. Donc là, il fallait traiter la bactérie, qu'elle ait plus de fièvre et que là, on pouvait commencer la chimio parce qu'on fait pas de chimio sur quelqu'un qui est enflammé, enfin qui a une inflammation. Donc ça a été vraiment plusieurs jours vraiment assez terribles. Genre ils essayaient de ponctionner l'acide dans son ventre, ça marchait pas, c'était hyper douloureux. Ils voulaient lui faire baisser la fièvre, ça baissait pas. Enfin ma sœur, c'était vraiment, enfin beaucoup de souffrance déjà psychologique de se dire ah, en fait je vais avoir une chimio alors que pas du tout, elle pensait pas. Puis enfin tous les changements physiques aussi parce que oui, enfin elle voulait guérir forcément, mais elle a pas non plus super envie de perdre ses cheveux, super envie de perdre ses ongles, de s'amaigrir, tout ça. Donc ça peut paraître futile, mais bon, enfin c'est plein de
Ouais,
bouleversements d'un coup, et pour
d'un
une
coup,
jeune fille
ouais.
c'est voilà, enfin même si voilà elle est ok, t'es toujours jolie même quand t'as pas de cheveux, mais bon enfin c'est quand
Oui,
même
ça fait
quelque
un
chose
choc,
que
enfin,
oui
pour tout
voilà
le monde, ouais, c'est choquant de se dire que
donc
d'un coup, tout
ouais.
tombe dessus, en fait,
C'est
du jour au
ça, et
lendemain.
surtout qu'en plus elle pensait vraiment avoir l'opération et plus rien, quoi.
Ouais.
Donc bon, enfin plein de bouleversements, que ce soit psychologique quoi, puis je suis même juste restée à l'hôpital en fait parce qu'elle y est rentrée le 18 et puis elle y est plus ressortie avant fin octobre quoi, ou début novembre. Donc elle était plus dans sa chambre, elle était plus à la maison, et puis l'hôpital c'est pas du tout l'hôtel quoi. Enfin je on a enfin moi j'avais dormi enfin j'ai dormi plein de fois avec elle là-bas parce que heureusement il y avait un lit à compagnon, donc tu pouvais dormir avec elle, donc voilà, laissez jamais seule. Mais en fait, genre toute la nuit, t'es là, tu dors, il y a quelqu'un qui rentre pour vérifier tes constantes, tu dors, il y a quelqu'un qui rentre pour vider la poubelle, tu dors, il y a quelqu'un qui rentre pour te mettre le petit-déj, t'es pas du tout genre bien chez toi à te reposer alors que t'es malade, quoi. Enfin, c'est. Donc, bref, voilà. Et en fait, finalement, quand l'inflammation s'est enfin dissipée, ils ont commencé une chimio qui, soi-disant, allait bien avec ce cancer-là. Enfin, c'est cette chimio qu'on fait quand on a un cancer de l'ovaire.
De
Je sais
ce
pas.
type,
Voilà, ouais,
ouais.
voilà.
Ok, et donc du coup, comment ça s'est passé la chimio à ce moment-là?
Là, ça s'est bien passé. Je sais pas, genre, ça s'est passé, en tout cas. Après, elle a eu encore des plein d'épisodes avec des pics de fièvre et tout, donc elle était vraiment dans le mal. Beaucoup de nausées, mais pas de vomissements. Enfin, elle encaissait quand même très bien les choses au niveau médical, je veux dire. Voilà, et puis du coup, elle aurait été revenue à la maison, mais après, elle était repartie parce qu'elle avait encore de la fièvre. Enfin, genre, elle avait quand même. Enfin, ces tumeurs faisaient vraiment beaucoup d'inflammation et de pics de fièvre. Et c'est que, en fait, la chimio, c'était une semaine à l'hôpital avec les produits, enfin, ou 5 jours, et après 2 semaines de pause à la maison. La première fois, elle n'a pas réussi à faire les 2 semaines de pause parce qu'elle a dû repartir. Et je crois que c'est à partir de la deuxième semaine de chimio où là, du coup, j'étais revenue. Moi, je me rappelle le jour où elle était sortie de chimio. J'étais revenue à Bordeaux pour passer plusieurs semaines. Et là, je l'avais trouvée assise dans le salon à faire un pulse. Et je m'étais dit, c'est incroyable. Genre, vraiment, genre là, elle n'est pas dans son lit, elle est dans le salon, elle fait un truc. Genre, c'est positif, quoi. Donc c'est à partir de là où ça allait de mieux en mieux, on va dire, son état, même si bon, à chaque fois les semaines de chimio c'était compliqué puisque elle avait des nausées, elle avait l'inflammation, des trucs comme ça, mais ça allait dans le bon sens, on va dire.
Ouais. Et du coup, psychologiquement, à ce moment-là, elle, comment elle allait? Et toi aussi, en tant que proche, vous vous sentiez comment?
Elle Genre, elle était assez. Bah, de toute façon, elle était pas bien, enfin, genre, elle voulait pas vivre ça, quoi. Après, elle se disait, bon, ben voilà, c'est le chimio. Après, on savait qu'il y aurait une opération et que normalement, ben, après cette opération, encore une fois, c'était censé être terminé. Donc, elle se disait, bon, là, j'encaisse ça. Après, je fais mon opération et c'est bon. Donc, je sais qu'on en parlait pas mal. On se disait, oui, ben, tu vois, quand tu auras 25 ans, tu auras déjà vaincu un cancer, c'est un peu badass et tout. Genre, on parlait pas mal de ce qu'on ferait après, genre pour sa guérison et tout. Donc, enfin, encore quand même dans un mood un peu optimiste
Oui.
et c'est bon, ça va aller. Et moi, ben, enfin, genre, j'étais en mode de qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, mais en même temps, c'était un quotidien qui pouvait ni être organisé, parce qu'en fait, on ne savait pas comment elle allait réagir chaque jour, ni être pas organisé, parce qu'il fallait toujours être à la disposition de l'hôpital, puisque si jamais il se passait quelque chose, bah, il fallait y aller directement.
Ouais.
Donc en fait, on ne pouvait pas organiser d'autres trucs à côté par rapport à l'hôpital. Donc c'était vraiment cancer, 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 cancer. Et en fait, c'était partout cancer, quoi. C'était, ben, là, dans mon couple, c'était ma sœur a un cancer, donc moi, je suis pas forcément bien. Et puis en plus, moi, je vivais beaucoup la maladie de ma sœur par procuration. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai réagi. Donc si elle allait bien, c'était une journée où j'avais le droit d'aller bien. Si elle allait pas bien, j'étais pas bien. Donc en fait, j'étais vraiment en train de vivre au rythme de ça aussi. Ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais bon, enfin, voilà, on réagit comme on peut avec
Bah
ce
oui,
qu'on
c'est
a.
ça, ouais.
Et voilà, quoi. Enfin. Là, quand j'ai essayé d'y repenser, c'est assez flou. Enfin, les autres souvenirs sont moins flous, mais genre là, c'était plus en mode qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin,
Ouais, un peu sonné en fait par
ouais,
les...
voilà, c'est ça. Genre, c'est trop bizarre. Enfin, du jour au lendemain, ta vie n'a plus rien à voir avec la vie d'avant, quoi.
Donc il y a eu cette chimio, ensuite donc une opération.
Ouais.
Et après cette opération, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été le verdict?
Bah, après l'opération, ma sœur, bah, du coup, elle a eu une semaine. Quand même pour se remettre, enfin je me rappelle c'était là c'était encore plus terrible parce que en fait elle avait été opérée de tout, enfin elle avait été bah, désolée mais ouverte en deux
Ouais.
vraiment clairement, donc elle avait une énorme cicatrice comme ça, donc en fait elle était comme ça genre bloquée, elle pouvait plus bouger, elle souffrait énormément et puis en plus c'est tout le truc genre il faut que ton système gastrique se remette en route, donc tu peux rien manger, dès que tu avales un truc c'est une douleur extrême, enfin c'est vraiment hyper compliqué aussi le post-opératoire. Et du coup, bon là, ça a été, je pense, ouais, au moins une semaine terrible, quoi. Et après, bah, elle allait mieux quand même. Enfin, on a pu partir à la montagne. Donc, c'est le dernier truc qu'on a fait vraiment ensemble, genre, je veux dire, sortie
Ouais.
de Bordeaux, quoi. Et puis, elle avait pu skier et tout. Genre, vraiment, on était... Enfin, c'était incroyable, quoi. Enfin, une force de la nature. Enfin, je veux dire, moi, je me fais prendre une prise de sang, je tombe dans les pommes. Elle s'est opérée avec un cancer, elle skie, quoi. J'étais là, ok. Du coup, non, enfin, c'était cool. Elle avait pu faire ça avec... Enfin, il y avait son copain qui était venu avec nous. Enfin, genre, hyper cool. Mais après, on a eu les résultats de l'opération. Et en fait, pas cool du tout. Parce que, ben, y a tout, enfin, le chirurgien qui l'a opéré, il a vraiment fait au mieux. Enfin, il était très méticuleux et tout. C'était pas le même chirurgien que la première fois. Enfin, celui qui l'a pas opéré, du coup. Et il avait regardé, en gros, ce qu'il nous a dit, tous les organes. Il avait pris, enfin, il avait enlevé, il avait ratissé large, en gros, pour pas qu'il y ait que les cellules aient touché les autres cellules et tout. Enfin... Et en fait, quand il y avait eu la biopsie, ben là, des fois la chimio, elle avait marché à 95%, donc ce qui avait été retiré était quasiment mort, et des fois ça avait marché qu'à 5%, et du coup c'était encore hyper actif, et du coup ça veut dire que dans son péritoine et dans son environnement gynécologique, là il y avait encore des cellules microscopiques qui allaient finir par grossir, et du coup ben, redevenir, enfin elles étaient déjà cancéreuses, mais genre grossir et faire de la merde quoi à l'intérieur.
Ouais.
Donc voilà.
Et sur toute cette période-là, donc de début de chimio, d'opération et tout ça, Louise avec ses autres proches, comment ça se passait aussi? Est-ce qu'elle a, avec ses amis, enfin même son copain, tout ça, j'imagine que c'était un chamboulement aussi pour tout le monde. Elle a été quand même soutenue ou est-ce qu'il y a des proches qu'elle a perdus en cours de route?
Bah là, son copain, lui, il était plus en mode dans le déni, lui aussi, on va dire. Enfin, même s'il était resté au début, quand elle devait se faire opérer, qu'elle s'était pas faite opérer, il était resté et tout à Bordeaux parce que lui, il faisait des études en Espagne. Donc, du
Ok,
coup,
complexe.
voilà, ouais. Déjà, s'ils étaient en relation à distance, c'est pas facile. Mais du coup, lui, il était resté quelques temps, puis après, il avait dû partir faire ses études en Espagne, parce que même si son directeur, il était compréhensif, il fallait quand même qu'il aille
Oui, bah oui.
voilà, faire ses études. Et puis, ses amis, là, elle avait encore, enfin, les potes qu'elle s'était fait au début de son master, parce qu'elle venait juste de rentrer en master, eux,
Ouais.
ils étaient venus la voir à l'hôpital une fois. Elle avait d'autres amis qu'elle avait eus quand elle était en licence qui étaient venus la voir aussi, ça je me rappelle. Enfin, là, les gens étaient encore assez présents.
Ouais.
Donc là, ça allait, mais bon, enfin, de toute façon, vu qu'elle était vraiment dans le mal, il y avait des. Elle n'avait pas forcément envie de recevoir
Bah
non
oui, c'est
plus
sûr, ouais.
énormément de personnes. Donc, mais je sais qu'elle leur parlait beaucoup par message, quoi. Il y a juste une personne de notre famille qui nous a dit. Genre, en fait, ma sœur, elle avait fait une story privée quand elle avait été opérée de son kyste, là. Et en fait, c'était quelqu'un de notre famille qui était très proche, qui n'avait pas du tout réagi alors qu'il avait vu qu'elle était à l'hôpital. Mais là, enfin, à ce moment-là, on ne savait pas que c'était un cancer. Et en fait, là, il l'appelle pendant qu'elle est en chimio en lui disant, mais attends, mais je viens d'apprendre que tu as un cancer, tu ne me l'as pas dit et tout. Elle lui dit, bah ouais, bah, t'as pas pris de nouvelles, en fait. Voilà. Et donc, lui, il a disparu de la circulation.
Ouais.
Mais sinon, là, les gens étaient encore assez présents.
Ok, et ça a changé par la suite du coup?
Ouais. Ouais.
Ah ouais.
Bah, les gens, finalement. Enfin, en fait, le truc, c'est que nous, le cancer, ça devient le centre de notre vie. Mais en fait, le monde continue de tourner autour et les
Bah
gens
oui.
qui n'ont pas ce problème-là, eux, ils continuent leur petite vie, leurs petits problèmes et tout. Et c'est normal, même si là, je dis ça avec presque un an de recul, mais sur le moment, je pensais pas du tout comme ça. J'étais en mode, mais vous captez pas, vous prenez rien, vous. Genre, j'ai enfin, bref, toujours de la colère, comme on disait tout à l'heure. Et genre, moi, par exemple, bah, mes amis. Ils m'ont saoulé parce que bah ils réagissaient en mode ah mince ah nana ou ils me prenaient pas de nouvelles et tout donc j'ai dit enfin j'avais plus de temps à perdre genre personne ne me voyait personne ne me disait ah ben tiens est-ce que enfin comment ça va est-ce que tu veux qu'on se voit est-ce que tu veux qu'on change les idées c'était toujours si t'as envie qu'on change les idées tu nous dis mais en fait genre propose-moi des trucs concrets enfin
Ouais.
je si t'as envie d'être là pour moi tu me dis genre je viens tel jour machin enfin. Enfin, je sais pas, vraiment j'avais trop du mal. Et il y a que bah, une copine qui était. Enfin, on était proches, mais pas si proches. Et qui, elle, s'est vraiment révélée. Genre, vraiment, c'est ma best assista de la life maintenant. Genre, vraiment, elle était tout le temps là. Elle me demandait tous les jours des nouvelles. Elle parlait à Louise aussi, genre directement. Elle a été super présente et tout. Du coup, maintenant, on est comme ça. Mais sinon, enfin, mes amis d'avant, genre, que ça faisait 7 ans qu'on était hyper proches, hyper potes, bah, au fur et à mesure, ils sont.
Ouais.
Genre, voilà, enfin, je faisais plus d'efforts et eux non plus, et voilà.
Ok. Donc, du coup, là, si on reprend un peu le cours, on
Ouais.
était rendu en à quel moment, en fait? Genre,
Là, on était vers
printemps
ouais, c'est ça.
2022?
Début
Ouais.
mars 2022, ouais.
Ok. Et donc, du coup, après la suite, qu'est-ce qui
Ben,
s'est passé?
du coup, Louise, elle a su qu'elle allait repartir en chimio.
Donc là, ça a dû encore être un peu un coup de massue, quoi,
Ouais.
j'imagine.
Oui, là, vraiment, c'était compliqué. Elle recommençait à avoir des douleurs, du coup, vers l'anus. Donc, du coup, elle se disait, est-ce que c'est possible que j'ai. Parce qu'elle avait fini sa chimio, genre, mi-janvier. Du coup, elle se disait, est-ce que c'est possible que j'ai déjà encore une tumeur suffisamment grosse pour me faire mal comme ça? Et nous, enfin, du coup, on savait pas et tout. Et là, elle a refait une écho. Et effectivement, elle avait deux nouvelles masses qui étaient plus du tout vers l'ovaire, en fait. À chaque fois, ces
Ouais,
masses
ça avait
tumorales,
bougé.
elle bougeait partout. Là, du coup, elle a dit. Enfin, en fait, je me demande, avec le recul, enfin, et ma mère, elle se pose la même question, si, genre, déjà là, son inconscient savait qu'elle n'allait pas s'en sortir.
Ouais.
Parce que, du coup, elle avait fait une grosse crise pour avoir un chien.
Ouais.
Et parce que mes parents nous ont toujours dit jamais d'animaux, jamais de chiens, parce que c'est vrai qu'on avait de la chance. Mes parents, enfin, en gros, on vivait bien, mais ils mettaient beaucoup leurs économies dans des voyages, donc on bougeait beaucoup. Et du coup, bah, avec des animaux, bah, c'est pas simple ni pour nous, et puis en plus, enfin, pour l'animal, si c'est pour, enfin, pas l'abandonner, mais genre le mettre à garder tous les 4 matins, voilà. Donc du coup, pas d'animaux. Et là, donc ma sœur était là, non, mais si on n'a pas de chien. Je fais la grève de la faim.
Elle avait gardé son caractère.
Ah oui. Non, mais en fait, mais pendant tout ce temps, genre là, elle faisait. Genre, j'en parle de manière très factuelle, mais en vrai, genre, moi, je mettais toujours mon masque pour faire le clown. Et genre, elle faisait énormément d'humour noir sur sa maladie. Genre, quand elle a perdu ses cheveux, elle était dans son plaid. Elle disait qu'elle était un moine. Genre, quand ça avait recommencé à pousser, elle disait, ah, j'ai une tête de kiwi.
Ouais.
Genre, elle défilait dans les couloirs de l'hôpital avec sa perche quand elle avait l'énergie. Enfin, genre, vraiment, elle était toujours très solaire, très drôle. Et enfin, c'était vraiment elle qui nous rassurait en mode, ouais, ben, enfin, voyez, moi, je garde le moral, donc vous aussi, quoi. Donc, ouais, enfin, toujours son caractère, genre, en mode, si j'ai pas de chien, je fais la grève de la faim et tout. Donc, bon, ça avait fait une énorme dispute dans la maison, mais finalement, mes parents, ils se sont dit, bon, c'est son rêve, et genre, ça peut lui faire du bien, lui faire penser à autre chose, faire des balades quand elle aura l'énergie et tout de marcher, et tout ça. Donc, du coup, on a pris donc le fameux bébé chien Brona, qui vraiment, genre, ça a été son monde à Louise, bah, jusqu'à la fin. Donc ça a quand même fait un bouleversement supplémentaire dans la maison, un petit chien, parce
Ouais.
que du coup on l'a eu, elle avait 2 mois. Alors vraiment c'est un amour, genre elle a vraiment été hyper facile à élever, mais genre voilà, c'était un asticot quoi, elle courait partout,
Ouais.
fallait la surveiller comme lait sur le feu. Donc du coup il y avait moi à la maison avec mon père qui surveillait le chien, maman qui amenait Louise à ses rendez-vous médicaux et qui après du coup prenait le relais sur le chien. Enfin bref,
Toute une
c'était vraiment
organisation.
ouais, épuisant. Et en plus, mon père a eu d'autres, enfin, a eu des problèmes de santé aussi à cette période-là. Donc du coup, il y avait le bébé chien, mon père que je devais amener à l'hôpital, ma sœur qui allait à l'hôpital. Enfin, genre, vraiment,
Ouais.
c'était épuisant, mais de chez épuisant. Mais heureusement qu'il y avait le petit chien, parce que du coup, elle était drôle et ça nous faisait quand même changer les idées. Mais du coup, on soupçonnait un cancer de la prostate à mon père. Donc j'étais là, ok, donc si ma
Ah
sœur a un
ouais,
cancer, mon
l'ambiance
père a un cancer, genre là, j'étais vraiment au bout de ma life.
dans.
Et en plus, mon médecin traitant voulait pas m'arrêter parce qu'il m'avait dit que c'était des problèmes logistiques.
Non
Parce
mais.
que, non mais vraiment,
Oh mon Dieu.
un sketch, le truc, genre je vais le voir, je lui dis, oui, enfin là, est-ce que, je demande juste une semaine, mais genre là, vraiment, mon père, il va avoir des rendez-vous, il va se faire opérer de la prostate. Ma sœur, voilà, genre ma mère, elle peut pas gérer tout le monde. Et moi, je peux pas être sur Paris, là, il faut vraiment que je sois là pour ma famille. Et il m'a dit que c'était des problèmes logistiques. J'étais là,
Non
merci
mais
frère,
c'est
donc...
fou d'être autant insensible,
Ouais. Mais
enfin.
surtout, en plus, c'était notre médecin de famille, quoi.
Ah
Enfin,
ouais,
genre, ça faisait
c'est
des années
fou.
qu'on le connaissait.
Ouais.
Donc, bon, bref, voilà. Finalement, mon père dit merci, c'était pas un cancer, c'était juste un problème de prostate que les hommes âgés ont aussi
Ouais.
régulièrement. Enfin, voilà. Du coup, après, ça s'est arrangé, on va dire. Et là, du coup, ben, ma sœur, elle est repartie en chimio. Et donc, c'était vraiment encore plus dur pour elle psychologiquement parce que, ben, encore à l'hôpital. Là, elle commençait vraiment à plus pouvoir se le voir en peinture, l'hosto. Même si au début, elle y trouvait un certain réconfort, parce que du coup, elle savait que s'il y avait un problème, elle allait directement être prise en charge. Là, enfin, à force, c'est pas qu'elle arrivait à. Genre, elle était un peu médecin quand même, tu vois. Genre, elle savait quand il fallait faire quoi et tout. Genre, même les chimios, elle aurait pu se les poser elle-même, parce que
Ouais.
vraiment, elle vérifiait tout et tout. Donc, du coup, là, elle savait beaucoup mieux se gérer à la maison, même si elle avait un pic de fièvre, elle savait ce qu'il fallait faire et tout ça. Donc, du coup, voilà. Et en plus, ben, elle est loin de son petit chien. Donc, du coup,
Son petit chien.
encore plus compliqué. Et là, je crois que c'est là, je sais plus si c'est là ou si c'était un peu avant, mais elle a été commencée à être suivie par une psychiatre qui était super. Donc, je pense que ça lui faisait du bien quand même au moral d'avoir quelqu'un comme ça qui pouvait la soutenir à ce niveau-là, parce que faut savoir qu'elle nous parlait très peu, en fait. Enfin, elle faisait beaucoup d'humour, elle nous disait des trucs, mais en tout cas, sur vraiment son.
Comment elle allait, quoi.
Ouais, vraiment, au fond, genre, elle disait pas trop. Parce que je pense qu'elle savait que ma mère, elle était déjà de nature pessimiste. Moi, elle avait décrété, bon, c'était vrai, que je paniquais pour un rien. Et moi, et mon père, qui était plus dans le déni, du coup, elle parlait pas trop, en fait, genre, vraiment, de ce qu'elle repensait vraiment au fond d'elle, quoi. Donc, c'était bien qu'elle puisse en parler à quelqu'un quand
Ouais.
même, quoi. Donc, voilà, elle est repartie en chimio, cette chimio-là a mieux marché que la première, parce que genre au bout de enfin au mi-parcours, genre il restait que des infiltrations, donc du coup, bah, c'était très positif. Mais à la fin de cette chimio là, son oncologue de Bordeaux l'a mis donc en relation avec l'oncologue de Paris, donc le professeur dont je parlais avant, et parce qu'il s'était bien rendu compte que même si voilà, enfin, la chimio avait mieux marché, elle allait quand même pas tuer toutes les cellules cancéreuses, même les microscopiques qui pouvaient du coup, enfin, qui allaient grossir dans tous les cas. Donc il fallait faire un truc un peu plus costaud, en fait, pour sauver ma sœur. Et c'est comme ça que du coup, bah, de juillet à début août, elle devait aller tous les jours. En fait, c'était terrible parce qu'on lui disait, il faut vraiment que tu tu te reposes avant de partir à Paris faire tes grosses chimios. Et en même temps, tous les jours, elle devait se faire transfuser en plaquettes, tous les jours, elle devait se faire transfuser en hémoglobine, et tous les jours, quasiment, elle devait aller à l'établissement français du sang pour donner ses cellules souches, parce qu'en fait, le principe des autres chimios, c'était qu'elle soit, genre qu'elle ait la chimio, donc ça allait tuer toutes ses cellules, genre toutes ses muqueuses, genre à tous les endroits du corps. Donc enfin, elle avait des champignons dans la bouche et tout, enfin bref, c'était terrible. Et après, là, cette chimio-là, elle était autogreffée avec ses propres cellules pour du coup ben, récupérer ses globules blancs et tout ça. Du coup, il fallait qu'elle les donne. Et puis, il y avait des jours où elle n'avait pas sécrété assez parce que, ben, mine de rien, la chimio, ça fatigue énormément la moelle épinière. Donc, bref, beaucoup de souffrances encore physiques et psychologiques parce qu'elle avait juste envie, c'était d'aller à la plage et de profiter avant d'être enfermée un mois à l'hosto, quoi. Donc, là aussi, vraiment enfin, des moments ouais,
Ouais,
compliqués,
en
quoi.
fait, enfin, c'est bien que t'en parles comme ça parce qu'on se rend pas compte à quel point bah, une chimio, c'est vraiment physique et
Ah
c'est
oui.
épuisant, quoi.
Ah
Je
oui.
trouve qu'on d'un œil extérieur, on réalise pas ça du tout. Et donc là, on arrive à donc août
Ouais,
2022,
ouais.
donc là, grosse chimio.
Ouais.
Qui du coup a été dur à vivre, je
Ouais, ouais,
suppose.
ouais. Là, c'était vraiment la descente aux enfers. Enfin, c'était pour... enfin, genre, on était déjà dans l'enfer, mais
Ouais.
encore pire, genre, vraiment, c'était... Enfin, moi, ça me faisait hyper mal au cœur. En fait, pendant tout ce temps-là, enfin, moi, j'avais forcément mal au cœur, mais j'étais vraiment en mode, en fait, je ne peux rien faire. Genre, vraiment, c'est terrible, ce sentiment d'impuissance. Et je sais que mes parents pensent à la même chose, mais... Enfin, du coup, c'est moi qui parle, mais je sais que voilà, tout l'entourage pensait à la même chose. Mais genre, en fait, on pouvait rien faire pour l'aider. Enfin, genre, moi, j'allais, enfin, genre, il faisait hyper froid dans sa chambre stérile. En fait, elle était enfermée pendant un mois où elle sortait pas du tout de la chambre. Et c'était ça pendant 3 fois, en fait. Et en fait, genre, il faisait froid. Elle avait, enfin, là, du coup, elle vomissait tellement c'était violent. Elle avait des sécheresses partout. Elle avait des champignons plein la bouche. Elle avait la bouche gonflée, les lèvres gonflées, desséchées. Enfin, genre, vraiment des signes physiques très, très durs. Et en fait, toi, tu vois ta petite sœur comme ça, et au bord des larmes, parce qu'elle en peut plus de souffrir, que ce soit psychologiquement, parce qu'elle est. Genre, elle se dit, mais pourquoi moi? Enfin, pourquoi il m'arrive ça? Et physiquement. Et en fait, tu peux rien faire. Genre, je lui avais acheté des chaussettes pour qu'elle ait pas froid aux pieds, mais genre, enfin, c'est ridicule, enfin, c'est pas ridicule, mais genre, tu vois, c'est un grain de sable au milieu de toutes ces souffrances, mais vraiment, tu peux rien faire pour la soulager, en fait.
Ouais, c'est horrible.
Donc, c'est, ouais, non, c'était vraiment horrible. Et puis, ma sœur, là, elle commençait, enfin, autant elle faisait beaucoup d'humour avant et tout, autant là, elle commençait vraiment à perdre, en fait, cette étincelle de joie de vivre et d'aura solaire qu'elle avait. Et du coup, c'était de plus en plus dur. Et donc là, je sais qu'elle avait, parce qu'elle avait arrêté son suivi avec sa psychiatre, et là, elle l'avait repris. Et là, je sais qu'elle l'avait mis, qu'elle lui avait donné des antidépresseurs. Et à partir de ce moment-là, ça allait un peu mieux. Bon, ça faisait pas non plus des miracles, mais ça l'avait quand même aidé à tenir ces 3 mois-là, tout en se disant que, bon, enfin, genre, elle essayait de garder quand même la ligne d'arrivée qui était, OK, ces 3 chimios-là. Une autre opération, et après, vraiment, c'est terminé parce que ces chimios-là, elles sont 50 fois plus dosées qu'une chimio normale. Et enfin, genre, en gros, je souffre pas tout ça pour rien, quoi. Genre, c'était vraiment, je sais ce que c'était ce qu'elle avait en tête, mais bon, je pense qu'elle était de plus en plus dans ce truc de genre, je fais tellement de choses, ça marche jamais. Est-ce que vraiment, enfin, genre, elle y croyait pas trop en fait,
Ouais, elle avait plus trop
finalement.
d'espoir à ce moment-là déjà, quoi.
Ouais, je pense que vraiment dans sa tête, là, à ce moment-là, parce que je sais que quand elle nous avait... Là, enfin, j'allais dire, je spoil la suite, MDR, c'est pas une histoire. Non, mais enfin, genre, je sais que quand elle nous a dit qu'elle allait... que peut-être si ça marchait pas et tout, elle allait arrêter ses traitements parce qu'elle n'en pouvait plus de l'hôpital. Genre, elle nous a dit qu'elle y avait déjà pensé pendant qu'elle était en bulle stérile. Donc, je
Ouais.
sais que là, enfin, déjà, elle se demandait si vraiment c'était possible, en fait, de guérir, quoi, vu tout ce qu'elle endurait.
Ok. Et après ces 3 mois de du coup de chimio vraiment hardcore, là pour
Ouais.
le coup, plus l'opération, on en était où au niveau des résultats?
Ben, en fait, là, après les trois chimios, ça s'est arrêté en mi-novembre 2022. Et là, elle devait être opérée hyper rapidement parce qu'en fait, ça, pareil, on ne le sait pas, mais voilà. En gros, une chimio, elle continue à faire son effet entre 4 à 6 semaines après l'arrêt. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être opéré hyper vite, en fait, pour garder les effets de la chimio et que ben, les cellules ne se renouvellent pas. Les cellules cancéreuses. Et en fait, donc elle devait avoir une opération le 12 décembre, Sauf qu'en fait, quand elle passait les IRM, ils avaient du mal en fait à voir où étaient ces cellules cancéreuses parce que là, elles étaient accrochées, enfin, vers les uretères, mais ils ne savaient pas si elles étaient accrochées aux uretères, si elles étaient juste derrière. Si... Enfin, du coup, en fait, ils lui
Ouais.
ont fait une cœloscopie, donc c'est un truc où tu mets une petite caméra et tu vas voir. Et en gros, elles étaient dans un repli de la poche du péritoine et accrochées aux uretères. Et du coup, bah, là, ils se sont dit, OK, donc en fait, il faut faire une opération à quatre mains, donc avec un gynécologue et avec un urologue, pour pouvoir faire ça correctement et vraiment tout enlever, quoi. Et en fait, bah, déjà que c'est compliqué d'avoir une date avec un chirurgien, avoir une
Ouais,
date avec deux
j'imagine pas, ouais.
chirurgiens, surtout qu'en plus, ils allaient être mobilisés toute une journée parce que du coup, ils faisaient genre des scénarios, genre suivant comment ce qu'ils allaient trouver exactement, où est-ce qu'ils allaient genre sectionner ces uretères. Parce qu'en fait, les uretères, tu peux en sectionner qu'un, si je dis pas de bêtises. Parce que du coup, après, c'est trop compliqué pour que l'urine circule. Donc du coup, ils pensaient genre faire ça d'un côté et le raccorder à la vessie. Et l'autre, il fallait qu'il prélève un bout d'estomac pour le raccrocher et raccrocher la vessie. Enfin, genre une opération, mais genre énorme. Enfin, nous, on se disait, mais... Ok, ça va peut-être la. Enfin, on pensait que ça allait la sauver de son cancer, mais c'est quoi les séquelles après? Parce que, enfin, genre, te sectionner un bout d'estomac et te couper les uretères, enfin, c'est pas non plus anodin comme
Ouais.
geste chirurgical, quoi. Donc, bref, du coup, finalement, ma sœur a une vessie très souple, ce qui fait qu'elle a pu être raccordée directement sans prélever de bout d'estomac, mais bon, ça a été une journée terrible. Elle s'est fait opérer, du coup, le 4 janvier 2023, donc le jour de son anniversaire. Donc du coup, on se disait, mais en fait, c'est un signe, genre c'est bon, c'est une renaissance, là c'est sûr, elle va être guérie et tout et tout. Quand ma sœur s'est réveillée, genre elle était vraiment en mode, enfin les chirurgiens, ils sont venus nous dire que eux ils avaient retiré tout ce qu'ils voyaient à l'œil nu, donc pour eux, bah, c'était, enfin c'est bon, c'était ok, quoi. Ma sœur, elle était là en mode, j'arrive pas à croire qu'on m'ait tout enlevé et tout, enfin genre elle était quand même assez sceptique, mais bon, les résultats, les jours d'après, ils étaient hyper encourageants, son marqueur tumoral... En fait, c'est un taux en fait qu'on te dose dans le sang, il descendait hyper rapidement, donc c'était vraiment encourageant. On se disait bah c'est bon, ça va. Donc du coup, ma sœur elle recommençait à faire des plans, genre elle et moi, je sais qu'on était allé manger une crêpe, elle m'avait parlé de ce qu'elle voulait refaire comme étude, enfin elle voulait reprendre, elle voulait refaire un stage en maternelle comme elle avait fait en 2021, en attendant de reprendre son master à la rentrée. Enfin genre du coup, elle commençait à se reprojeter. Elle avait gagné un shooting photo avec une marque qu'elle voulait faire absolument, et du coup elle m'avait dit on va le faire ensemble, machin. Enfin, du coup là c'était vraiment une bonne période parce que ben on commençait à repenser à l'avenir hors du cancer et hors de l'hôpital, quoi.
Ok. Et avant de parler de la suite, je me demandais, je crois que c'est un sujet que tu as abordé dans ton livre, justement, sur le milieu de l'hôpital et le rôle des soignants et tout ça. Est-ce que vous êtes tombé sur des personnes vraiment mal intentionnées ou au contraire des super personnes, enfin...
Bah, il y a eu un peu les deux. Enfin, dans les super personnes, je penserais à Amélie, du coup, qui est c'était une aide-soignante qui était à Bordeaux. Elle, bah, enfin, je la vois toujours. Et ma sœur, elle était devenue hyper amie avec elle. Enfin, c'était même en dehors de la relation soignant-patient, enfin, parce qu'elle la voyait à l'extérieur et tout ça, quand elle n'était plus à l'hôpital de Bordeaux, mais à l'hôpital de Paris. Donc elle, vraiment incroyable, vraiment la joie de vivre incarnée, enfin, ça faisait vraiment du bien d'avoir quelqu'un comme ça à l'hôpital. Et le professeur, enfin l'oncologue de ma sœur de Paris, vraiment ce monsieur incroyable, quoi. Enfin, il était hyper proche de ses patients, enfin, il prenait toujours des nouvelles, enfin, je sais qu'il a appelé ma sœur hyper souvent et on le voyait faire avec ses autres patients, enfin, vraiment quelqu'un de passionné par son métier et qui voulait vraiment sauver tout le monde, quoi. Enfin, vraiment très très, et puis très très clair, et puis il faisait des petites blagues, enfin, ça c'était super agréable. Mais après, oui, donc bah, déjà, j'ai parlé de mon fameux médecin traitant, là, qui voulait pas m'arrêter pour des raisons logistiques. Mais du coup, ma sœur, elle a subi quand même des violences psychologiques. Enfin, c'était juste des exemples comme ça. Mais par exemple, quand elle allait partir en chimio, là, en août, les grosses chimios à Paris, genre, elle croise une infirmière, après s'être fait... Enfin, son truc de plaquette là, et l'infirmière elle lui dit: Ah oui, donc j'ai appris, tu pars à Paris en août et tout. Tu sais, mais tu sais que moi, ce que je fais en août, je pars à New York. Genre, bah,
Ok,
madame,
cool pour
enfin,
toi.
oui, voilà, enfin, genre, tu dis pas ça alors que t'es. Enfin, je peux comprendre des fois la maladresse, enfin, à l'époque, je comprenais pas du tout, mais je peux comprendre la maladresse, mais genre là, quand t'es soignant, je sais pas, enfin, non.
Ouais.
Ou alors ma sœur qui fait genre là dans les bulles à Paris un psychologue parce que enfin donc elle était suivie par sa psychiatre Parce que en fait, les psychologues qu'il y avait là-bas, mais ils n'étaient pas du tout. Enfin, la première, il y en avait deux. La première psychologue, elle lui avait dit que c'était elle qui s'était créé son cancer.
Mais
Genre,
quoi?
ouais, que c'était elle qui s'était créé son cancer, qu'elle devait chercher dans son enfance et son adolescence à quel moment il y avait eu quelque chose et du coup, c'était elle qui s'était créé ces
Mais c'est trop
cellules-là.
grave en vrai de
Oui,
dire ça.
mais oui. Donc, du coup, ma sœur, genre, elle était en mode. Enfin, genre, ouais, je sais qu'elle dit n'importe quoi, mais ça l'avait quand même travaillé
Bah oui,
plusieurs temps, genre
mais
en
quelle
mode,
horreur.
ouais, genre en mode, c'est ma faute si je suis malade, enfin, voilà. Et le deuxième, il lui avait dit, ok, bon, bah, aujourd'hui, on va faire une séance, parce que du coup, elle voulait plus voir la première, forcément. Du coup, elle avait essayé avec la deuxième personne, et il lui avait dit, ah oui, on va faire une séance aujourd'hui sur un mot que vous choisissez, vous dites le mot, et nous, et après, on articule la séance autour de ça. Et elle lui avait dit, bah, injustice, donc injustice d'être malade si jeune, injustice d'être à l'hôpital et tout, et puis bah, enfermée là dans cette bulle et tout. Il lui avait dit, bah non, pourquoi injustice? Vous avez choisi d'être là. C'est vous qui avez choisi d'être hospitalisée. Bah, elle lui dit, bah oui, mais frère, en gros, si jamais je suis pas là, en fait, je clame, quoi.
Ouais.
Enfin, donc non, enfin, c'est pas vraiment mon choix. Enfin, oui, c'est mon choix, mais enfin, du coup, lui, il était là, non, c'est vous qui avez choisi et tout d'être là, c'est vous qui avez choisi d'être hospitalisée. Donc ça, c'est pas injuste et tout, machin. Donc bon,
Mais c'est quoi
enfin,
ces gens?
genre.
Mais ça fait trop peur en
Ouais,
vrai.
bah vraiment pas du tout d'accompagnement. Enfin, à part sa psychiatre là, qu'on a trouvé, qui elle, donc vraiment, comme je dis, enfin, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je lui ai jamais parlé, mais d'après ce que Louise en disait, elle était vraiment contente du suivi. Mais sinon, le reste. Puis, enfin, même pour nous, les aidants, enfin, moi, du coup, j'ai rien eu du tout. Enfin, je pourrais parler de ma propre expérience avec les psys, qui est. Enfin, j'ai rien du tout contre les psys, mais enfin, moi, je suis vraiment pas tombée sur des personnes bien. Mais ma mère, par exemple, qui était donc l'aidante principale, on va dire, qui devait avoir un suivi psychologique, bah, elle a vu une fois la psychologue, elle lui a dit, bon, ben, je reviens lundi, bah, tu vois, genre, on attend toujours lundi, quoi. Genre, elle est jamais revenue. Ma mère a. Bon, là, ma mère, elle se fait suivre elle-même par quelqu'un qu'elle trouve très bien, donc ça, c'est cool, mais genre, c'est pas du tout l'hôpital qui a fourni quelque chose pour les
Ouais.
aidants, quoi. Vraiment pas du tout.
Ok. Et donc là, on arrive, donc on est en début 2023.
Ouais.
Il y a un moment où ça va mieux.
Ouais.
Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe pour qu'on redescende d'un seul coup?
Bah, du coup, ma sœur, elle se faisait quand même toujours toutes les semaines une prise de sang pour vérifier que son marqueur tumoral descendait. Et en fait, bah, normalement, il a plus descendu, il a remonté. Donc, du coup, enfin, c'était bizarre. Donc là, genre, l'oncologue, il dit, bon, bah, faut pas paniquer encore parce que. Bon, il remonte certes, mais des fois, parce qu'elle s'était fait doser à Paris la fois d'avant, et là c'était à Bordeaux. Donc il dit parfois c'est pas exactement et tout, comme c'est pas au même endroit, faut que tu te refasses faire une prise de sang. Donc le lendemain, reprise de sang, et en fait ça avait encore augmenté, genre ça a augmenté vraiment de manière exponentielle. Donc on s'est dit ok, en fait son cancer il a repris, mais où? Parce que, enfin, soit il restait vraiment des cellules microscopiques, mais là les deux chirurgiens, ils s'étaient dit, bon, enfin, nous, on a tout enlevé, quoi. Donc, voilà. Et en fait, c'était pas du tout à cet endroit-là, c'était au foie. Parce qu'elle avait repassé, du coup, un TEP scan. Enfin, donc un scanner. Et en fait, bah, les cellules tumorales, elles étaient au niveau du foie. Donc, on pense que quand elle s'est fait opérer déjà en janvier, il y avait déjà, ça avait déjà migré au foie, mais comme c'était microscopique, ben,
Bah oui, il pouvait pas le
ils
voir,
pouvaient
quoi.
pas le voir. Donc, et puis de toute façon, quand on passe un TEP scan, donc le truc, enfin vraiment l'imagerie qui est, on va dire, assignée pour voir les cellules tumorales, parce que t'ingères de l'iode et du coup ça colore les cellules tumorales, ils peuvent voir que quand c'est. Enfin, que je ne dise pas de bêtises, mais que quand c'est supérieur à 1 mm, je crois. Donc, du coup, si c'est plus petit que ça, enfin, tu ne le vois pas, même à l'imagerie. Donc, du coup, si c'était ça, ben, en fait, c'était normal que ça ne se soit même pas coloré non plus. Donc, là, l'oncologue, il a dit, il avait dit à ma sœur que. Il avait encore une corde à son arc, un autre type de chimio. En fait, il y a plein de gens qui vivent avec un cancer au foie. En faisant ça, en fait, c'est une semaine, tu as un tiers de la dose de chimio, la deuxième, un autre tiers, la troisième, le dernier tiers, une semaine de repos. Et en fait, toutes les semaines, tu vas faire ta chimio comme ça et tu vis très bien. Bon, je sais pas si tu vis très bien, mais genre, tu vis en tout cas avec ton cancer au foie. Parce qu'en fait, c'est un organe très vascularisé. Donc, du coup, la chimio a tendance à bien faire effet à cet endroit-là. Et du coup, ma sœur, elle s'est dit, OK, bon, ben, je vais tenter ça. Donc, mais là, en fait, elle allait de plus en plus mal aussi physiquement parce que du coup, ben, elle avait. Bon, elle souffrait pas du foie ni rien, mais en fait, son corps était vraiment fatigué. Genre, elle avait plus aucune défense immunitaire. Sa moelle épinière, elle était vraiment hors service, quoi. Donc, du coup, en fait, elle a fait sa première injection. En fait, elle a été malade énorme, enfin, très, très, très malade. Et toute sa flore intestinale aussi, elle était complètement détruite. Et du coup, elle a dit, enfin, elle nous avait déjà dit, en fait, que si cette chimio-là fonctionnait pas, elle allait arrêter ses traitements. Et en fait là bah, du coup ça a pas du tout marché parce que non seulement elle a été super malade donc elle a dit mais moi c'est bon j'en ai marre de souffrir de enfin ouais, en fait du coup bah, la chimio c'est ça te soigne mais en même temps ça te fait aussi des
Ouais.
effets secondaires donc elle dit j'en ai ras-le-bol de souffrir de ça de tous ces trucs là pour me soigner qui en fait me détruisent un peu plus quoi et en plus son marqueur tumoral qui a été redosé le lendemain il a même pas baissé d'un millième quoi genre il continue à
Ouais.
augmenter donc vraiment ça marchait pas du tout donc là on avait eu une discussion parce que ma mère, elle voulait absolument qu'elle tente sa deuxième semaine pour voir quand même. Et moi, je m'étais dit qu'en fait, ma sœur, elle avait tellement pas eu le choix durant tout le temps, en fait, même à partir du moment où elle a eu son cancer, genre, c'était pas son choix non plus. Je me suis dit, le seul choix qu'elle a, c'est de savoir ce qu'elle fait elle-même avec sa vie et avec ses traitements, quoi. Donc, si c'est son choix d'arrêter, ben, c'est son choix d'arrêter. Du coup, on avait fait une petite liste de questions, genre ce qu'elle devait vraiment demander à son oncologue, est-ce que lui, ce qu'il en pensait, est-ce que vraiment elle pourrait vivre avec ce cancer au foie, est-ce que même si, genre, admettons, son marqueur tumoral descend, c'est pas dit que son cancer il remigre pas ailleurs et tout, enfin voilà. Du coup, elle a eu la discussion avec l'oncologue, moi je l'avais laissée seule, et en fait, ça c'était le 19 février 2023, et en fait, lui, il lui a dit que, voilà, enfin, il allait être honnête, il y avait pas de. Enfin, c'est bon, enfin, le cancer était trop fort et
Ouais.
ça resterait de l'acharnement thérapeutique, quoi. Donc, du coup, ben, elle a décidé d'arrêter ses traitements et elle a dit surtout qu'elle voulait pas aller à l'hôpital, même pour les soins palliatifs, hein, les soins de confort de fin de vie, tu sais, pour pas souffrir, etc., qu'elle voulait le faire à la maison. Donc, du coup, ben, voilà, on a mis ça en place avec l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile. Et voilà, quoi, enfin, c'est elle, du coup, qui a fait son choix, quoi.
Et elle vous l'a annoncé comment ça?
Ben, elle avait déjà dit avant, donc moi je me rappelle, elle avait dit une fois où j'étais pas à Bordeaux à ce moment-là, je me rappelle j'étais assise exactement là
Ouais.
quand j'étais au téléphone, et en fait du coup j'avais vomi toute la soirée, moi, parce que moi en fait il faut savoir que dès que j'ai un truc, tu vois, genre c'est mon ventre, enfin c'est, voilà,
Ouais.
je sais
Ton
pas, toutes
corps qui
mes
réagit,
émotions ils
quoi,
sont
ouais.
au niveau du ventre, donc du coup j'avais fait que vomir de tristesse. Mais je m'étais dit, enfin voilà, je m'étais dit non mais c'est bon, la chimio ça va marcher et tout, enfin bref, voilà. Et là bah, du coup j'étais à Bordeaux, donc bah, d'abord elle nous a dit voilà, enfin monsieur machin il nous a dit ça, enfin il m'a dit ça, donc moi j'arrête mes traitements mais vous inquiétez pas, ça va aller, on va aller à la plage et on va aller manger des crêpes, c'est exactement la phrase qu'elle nous a dite. Et après elle est partie s'enfermer dans sa chambre pour annoncer à son petit copain qu'elle arrêtait ses traitements. Moi, j'étais assise à table avec mes parents. Du coup, on s'est donné la main comme ça, tous les trois. Moi, j'ai dit, bon, on continuera à parler de Louise. Ce sera pas un sujet tabou et tout. Et ils m'ont dit, bah non, pourquoi tu voudrais qu'on
Ouais.
parle plus de Louise et tout. Du coup, on s'est dit qu'on allait vraiment se trouver comme trois couillons, tous les trois, puisque, comme je disais, c'était vraiment ma sœur qui mettait la joie de vivre dans
Ouais,
la
je vois.
maison. Et puis après, du coup, quand elle a fini de parler à son copain, on est parti dans sa chambre. Il y a Brona qui est venue sur le lit. Et on a pleuré comme ça pendant je sais pas combien d'heures, en fait. Genre, le temps s'est arrêté, quoi, et on était tous les cinq, là, à pleurer. Et voilà, quoi. Du
OK.
coup, c'était ça.
Et comment s'est passé l'accompagnement vers la fin du coup parce que donc elle a choisi l'hospitalisation à domicile. Du coup, vous étiez tous ensemble. Enfin,
Ouais. Ouais,
comment ça
bah
s'est
du coup, en
passé?
fait, elle a pris. Après, en fait, elle avait. Enfin, comme elle était de plus en plus amaigrie, parce qu'elle a. Enfin, en fait, il y a eu quand même un petit rebond où elle se sentait un peu mieux. Bon, elle pouvait plus marcher, par contre, parce qu'elle avait plus assez de muscles dans les jambes. Mais elle avait de l'appétit, genre vraiment. Voilà. Donc, moi, je passais le plus clair de mon temps assise à côté d'elle. Et en fait, elle avait. Comme elle était quand même assez amaigrie, elle avait très froid. Donc, du coup, elle avait migré dans ma chambre, qui est la pièce la plus éclairée de la maison. Du coup, bah, j'étais sur mon lit à côté d'elle et tout. Puis on faisait des trucs. Genre, moi, je montais, parce qu'à l'époque, je faisais des vlogs d'écriture. Je montais mes vlogs. Elle m'aidait à faire des trucs parce qu'elle était super douée en montage et tout. Et puis, il y avait ma grande sœur qui était venue aussi, parce qu'on a une grande demi-sœur. Il y
D'accord.
avait ma nièce qui était venue. On avait fêté l'anniversaire de mon père aussi le 9 mars. Il y avait son copain qui était revenu d'Espagne. Donc, en fait, il y avait toujours quelqu'un à la maison et tout. Et puis, elle voulait voir plein de personnes, en fait, bah, avant de partir. Donc, du coup, il y avait Amélie donc, qui était venue. Elle avait des copines. Des Miss qui étaient venues aussi la voir. Et ben, la personne qui avait disparu au début, là, quand j'avais dit, ah, tu m'as pas dit que tu avais un cancer, machin, qui est miraculeusement réapparu.
Ouais.
Voilà, mais donc moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu lui parles? Mais ma soeur, elle était vraiment vachement dans le pardon et tout. Elle voulait voir tout le monde et tout ça, enfin régler ses comptes avec tout le monde avant de partir, quoi. Et du coup, ouais, non, sinon le reste du temps, bah, j'étais à côté d'elle et en fait, du coup, elle dormait ou elle, enfin, genre au fur et à mesure, elle dormait ou elle aurait me parlé ou voilà, enfin. Et puis on mangeait ensemble à côté, du coup, parce que ma mère, elle lui portait à manger, du coup, elle me portait à manger aussi, on regardait des films, on faisait des trucs, un peu comme si de rien n'était finalement, alors qu'en fait, bah, on savait pertinemment, mais enfin,
Ouais.
voilà. Et puis après. Les personnes de l'HAD, elles étaient super et tout. Donc, tant que ma sœur, elle souffrait pas, il y avait rien de spécial, en fait. Enfin, ils venaient juste vérifier et tout, que tout allait bien. Puis après, elle a commencé à un peu souffrir. Donc, ils lui ont mis de la morphine, sauf qu'ils l'ont un peu surdosée. Donc, du coup, là, elle avait, genre, vraiment, du jour au lendemain, elle a complètement perdu la tête. Genre, elle voyait des visions et tout. Et puis après, bon, finalement, ils se sont rendus compte qu'il y a un peu trop de morphine, donc du coup, bah, ça, ils l'ont baissé et du coup, bah, ça allait beaucoup mieux. Donc là, c'était un peu quelques jours drôles parce que du coup, on lui racontait ce qu'elle avait dit et tout. Voilà. Et puis après, elle a organisé elle-même son enterrement aussi.
Okay.
Donc du coup, elle avait choisi ses textes, elle avait, enfin. Ma mère, comme elle était prof, elle avait toujours gardé contact avec la personne qui faisait le catéchisme à l'école et son mari était diacre, donc du coup il avait pu avoir l'église et un peu faire une cérémonie sur mesure, ça le dérangeait pas du tout. Donc du coup Louise, elle avait choisi des musiques qui n'étaient pas du tout des musiques religieuses, mais du coup il était ok pour les passer. Puis ma sœur, elle voulait pas un truc trop long parce que quand on était petite, on était déjà allé à des enterrements qui durent très longtemps et c'est très plombant, donc elle voulait pas du tout ça. Donc du coup voilà, elle avait choisi ça avec mon père. Elle avait choisi des textes religieux ou non. Elle-même, elle avait écrit un texte. Elle avait écrit des lettres aussi, une à son copain et une à mon père. Et moi, ma mère et moi, elle nous a dit les choses directement verbalement. Donc du coup voilà, on a eu une grande discussion où elle me disait ce que je devais faire après quand elle serait plus là et tout. Et c'est là où ça devient un peu compliqué pour moi de parler. Voilà, et du coup voilà, elle nous a dit tout ça et après du coup, enfin genre pareil, elle continue à faire de l'humour quand même, genre elle m'avait dit comment elle voulait être habillée du coup dans son cercueil, quelle image elle allait mettre sur son cercueil, du coup un peu comme dans les séries américaines, tu sais, ils ont toujours
Oui, la photo,
leur photo,
ouais.
donc du coup voilà, elle avait choisi sa photo et tout, enfin bref, elle a tout organisé. Et du coup, voilà, elle a dit des trucs à plein de monde. Et du coup, après, là, pour le coup, elle a vraiment perdu la tête, quoi. Enfin, là, de toute façon, elle dormait de plus en plus et elle respirait de plus en plus de manière irrégulière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas non plus, mais que les personnes qui sont en fin de vie sont vraiment peuvent avoir des arrêts respiratoires assez longs. Et du coup, moi, comme
D'accord.
j'étais tout le temps à côté d'elle, ça me faisait des trous dans l'estomac à chaque fois.
Ouais, ça devait
Mais
être horrible parce que
ouais.
tu sais que ça va arriver et tu sais pas quand en fait.
Ouais.
Enfin,
Ouais.
ouais.
C'est ça. Donc, du coup, ça me foutait des trous dans l'estomac à chaque fois. Et voilà, bon, les jours sont passés. Et en fait, on a eu le 18 mars. Et le 18 mars, c'est le jour où on avait eu Brona, donc l'année d'avant. Et du coup, je sais que c'était hyper important pour Louise de fêter le jour des 1 an qu'elle avait son bébé chien. Sauf que bon, elle était vraiment pas dans un bon état. Je sais même pas en fait si elle s'est vraiment rendue compte et tout, mais en tout cas, j'ai des photos où elle est éveillée avec son chien sur son lit et tout. Et puis après, du coup, on arrive donc au 19 mars, le jour où elle est partie. Et en fait, le matin, elle a fait un gros malaise, en fait, parce que bah, toujours son caractère, genre, elle voulait vraiment continuer à faire les choses elle-même. Et elle avait décrété qu'elle voulait aller aux toilettes toute seule, sauf que, bah, comme je disais, elle avait plus de force dans les jambes. Donc, en
Ouais.
fait, elle était tombée et tout. Enfin, bon, C'était vraiment branle-bas de combat le matin, mais bon, après, il y a la chaîne qui est arrivée, ils l'ont bien réinstallée, ils lui ont remis la petite pompe à morphine et tout, ils lui ont mis un petit... parce que ma mère, elle dormait avec elle, en fait, la
D'accord.
nuit pour être sûre que bah, elle parte pas en pleine nuit toute seule, quoi. Et en fait, ma mère, elle a dit qu'elle avait été très agitée la nuit, bizarrement, alors que cette nuit, elle n'était pas du tout agitée. Et là, du coup, enfin, bref, ça allait mieux. Il lui avait mis un petit sédatif pour un peu la calmer parce que c'est vrai qu'elle était très agitée et tout. Puis à un moment, elle s'est réveillée. Genre, elle a fait, oh là là, quelle matinée ou un truc comme ça. Genre, elle avait l'air hyper consciente de tout ce qui s'était passé. Et du coup, après, ben, comme ça allait bien, entre guillemets, genre, son petit copain, il est parti parce qu'on l'avait appelé pour lui dire qu'elle était tombée, qu'elle avait fait un malaise et tout. La chadée est partie. Mon père, il est parti promener ben, Brona, le petit chien et tout. Et moi, du coup, je suis restée dans la chambre avec elle. Et ma mère, elle me dit, bah, écoute, parce que moi, du coup, avec tout ce qui s'était passé le matin, j'avais pas mangé, enfin, j'avais même pas petit-déj, quoi. Donc, elle me dit, écoute, moi, je vais prendre mon café et tout. Et après, on échange. Genre, moi, je resterai avec Louise et tout ça. Et toi, après, tu vas manger. Et en fait, bah, genre, 2 minutes. Enfin, moi, je scrollais sur mon tel et puis je l'écoutais respirer, quoi. Et 2 minutes après que ma mère soit partie, bah, en fait, ma sœur, elle s'est réveillée d'un coup, genre, vraiment, comme si elle était. Je sais pas, réveillée, sauf qu'en fait, ben, j'ai bien compris qu'elle n'était pas du tout réveillée parce que je lui parlais, je lui disais des trucs et tout. Et en fait, elle voyait bien qu'elle ne me voyait pas, qu'elle disait, voilà. Et en fait, c'est juste que, ben, enfin, comme tu disais, genre, on ne voit pas dans les films, dans les séries, la représentation des personnes qui sont malades, on ne se rend pas compte. Mais en fait, on ne se rend pas compte non plus comment les gens font quand ils décèdent, parce qu'en fait, ils ne sont pas juste comme ça, à fermer les yeux et tout, pas du tout. Donc du coup bon je vais passer les détails mais en gros j'ai su que voilà c'était le moment où elle était en train de partir donc du coup j'ai hurlé ma mère est arrivée en courant et du coup en fait bah, genre après elle est enfin genre c'est pas d'un coup c'est pas bref genre tu vois et bah, elle s'est éteinte petit à petit et du coup bah, on était avec elle mais genre vraiment le moment où elle est partie j'étais toute seule quoi et
Ouais, ça a dû
j'étais
être
tellement
dur pour toi de te trouver toute seule avec elle à ce moment-là.
Ben, en fait, non, pas tellement. Enfin,
Ouais.
je sais qu'il y a plein de... Enfin, parce qu'après, j'ai vu des psys et tout, où je racontais, enfin, ou des hypnotiseuses, pardon.
Ouais.
Enfin, de l'hypnose et tout, en me disant, est-ce que c'est
Un
une scène...
trauma ou
Ouais, est-ce que c'est
pas,
un trauma? Pas du tout, en fait. Genre,
ouais. Ok.
vraiment, j'étais même pas contente, mais enfin, je voulais vraiment pas qu'elle parte et que je sois pas là, en fait. Genre, c'est
Ouais.
vraiment, c'était ma hantise. Et du coup, finalement, je... Genre, évidemment, c'est pas une scène qui me fait plaisir à y repenser, tu vois. Mais en vrai, c'est... Je suis contente, en fait, d'avoir été là, vraiment, tu vois. Donc, c'est pas du tout un truc auquel j'ai plus envie de penser ou quoi. C'est... Je me dis, j'étais là jusqu'au bout, quoi, vraiment.
Ouais, effectivement. Est-ce que vous aviez parlé avec ta sœur de ton projet de livre sur elle?
Ouais. Ben, en fait, du coup, quand elle pensait vraiment guérir après son opération, après ses chimios intensives, là, en fait, on s'était dit, mais pourquoi tu ferais pas un livre témoignage? Et comme, ben, du coup, toi, tu l'avais connue sur Insta où elle documentait, elle sensibilisait beaucoup à son cancer, on avait repris, en fait, tous les posts qu'elle avait faits. Et on avait fait un livre témoignage qu'on avait appelé Un combat ensemble, où du coup, ben, il manquait juste la fin. Et on avait même fait un résumé et tout, et on avait mis des images en fait de chaque étape, quand elle s'était coupée les cheveux aux épaules, quand elle s'était coupée les cheveux courts, quand elle avait perdu ses cheveux, etc. Enfin, genre vraiment avec des belles photos et tout ça. Et donc, du coup, il y avait ça qui était là. Et moi, j'avais envie d'écrire un roman bah, sur les aidants, sur le rôle des aidants. Et j'avais déjà commencé à l'écrire et tout, et ma sœur avait lu le début. Et en fait, quand on a su qu'elle était condamnée, ben justement, dans la discussion, là, je lui avais dit, est-ce que je peux reprendre ce que tu as fait? Je vais en faire un roman à deux voix avec ben, la personne qui est malade et sa sœur, etc. Du coup, elle m'avait dit oui. Je lui avais demandé comment elle voulait s'appeler dans le livre. Donc, elle m'avait dit qu'elle voulait toujours s'appeler Louise. Comment je voulais que ben, Brona, donc son chien, s'appelle. Et du coup, elle m'avait dit, ben, Brona. Donc, du coup, voilà, enfin, on avait parlé de ce projet-là. Et je lui avais dit que du coup, ben, non seulement je ferais ça pour porter sa voix, pour porter son message. Et que du coup, ben, enfin, en fait... Pour moi, ma sœur, c'était vraiment ma star. Enfin, de toute façon, genre, c'était vraiment, tu vois, un peu la fierté de la famille. Bon, c'est peut-être un peu, genre, superficiel, mais genre, vraiment, j'étais tellement belle, j'étais là. Mais vraiment, c'est notre trophée, tu vois, de la famille, tellement elle est jolie et tout. Et puis, enfin, donc, drôle et bref, intelligente, tout ça. Et du coup, j'étais en mode, de, voilà, enfin, c'est elle, c'est elle qui représente la famille Giraudeau, quoi. Et je la prenais tout le temps en photo, tout le temps quand elle était petite et tout. Et je pense que c'est pour ça. Enfin, déjà, elle avait un don pour poser, même petite. Et pour moi, genre, c'était vraiment, genre, elle allait briller, tu vois. Donc, je me suis dit, genre, c'est pas parce que son cancer, bah, il a fait ça que, genre, elle va pas briller, quoi. Donc, du coup, voilà, c'était important pour moi qu'elle soit l'héroïne d'un roman parce que écrire, c'est ce que je sais faire de mieux depuis que je suis petite. Alors, non pas que je sois vraiment une super grande écrivaine, mais genre, vraiment, c'est comme ça que j'arrive le mieux à m'exprimer, tu vois. Et je me suis dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, même si. Voilà, bah, elle est plus là et moi un jour je serai plus là et tout, bah, au moins le livre il va rester. Donc déjà ça c'était hyper important pour moi et après je me suis dit je vais prendre toutes les occasions pour parler d'elle de toute façon parce que j'ai pas envie qu'on l'oublie quoi. Enfin genre c'est anormal ce qui s'est passé donc voilà je veux tout faire pour essayer de contrer ça et en même temps faire un truc utile parce que comme je disais genre vraiment je me sentais tellement impuissante tu vois là j'ai l'impression de faire des trucs utiles donc du coup c'est pour ça bah, quand tu m'as proposé pour le podcast merci d'ailleurs je me suis dit
C'est
là
normal.
je vais saisir l'occasion le livre je vais saisir l'occasion dès qu'on me demande de venir parler de Louise de l'accompagnement pour les cancers de ça j'y vais bah, pour parler d'elle quoi pour pas qu'on l'oublie et pour que sa voix elle soit entendue parce que ben bah, enfin comme voilà j'ai raconté elle a tellement souffert que je me dis bah c'est pas pour disparaître dans l'oubli ou qu'on en fasse quelque chose de tabou ou quoi, tu vois, et voilà.
Okay. Et toi, comment est-ce que tu vas maintenant, plus d'un an après? C'est quoi tes sentiments, tes émotions par rapport à tout ça?
Bah moi c'est très compliqué, genre j'essaie vraiment de garder la tête haute parce que bah je me dis voilà, enfin j'essaie de prendre exemple sur Louise qui a toujours été forte, qui genre à 23 ans elle a décidé d'arrêter ses traitements, elle savait qu'elle allait décéder, genre elle a organisé son enterrement, elle a vraiment, enfin, genre, il y a eu des moments où elle était pas bien, mais en soi, elle s'est tellement peu plaint, enfin, je veux dire, c'est, enfin, comparé à ce qu'elle a vécu, je veux dire, elle a vraiment quasiment rien dit. Voilà, j'essaie de faire ça. J'avoue, quand elle est partie, j'ai eu vraiment beaucoup d'idées noires en mode, bah, je vais aller la rejoindre et tout. Mais bon, je me suis dit que s'il y avait un au-delà, genre, j'allais arriver, elle allait me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Genre, elle allait me foutre. Trois baffes dans la gueule, enfin, je pense qu'elle allait m'en vouloir, elle me dit, moi je voulais vivre, toi tu fais quoi, genre vraiment, donc bon je me dis voilà il faut que j'avance, genre je sais ce qu'elle m'a dit du coup de faire, enfin de continuer à écrire, de continuer à faire du sport parce qu'elle voyait que ça m'épanouissait, de prendre sa garde-robe parce qu'elle m'a dit tes habits à toi ils sont trop moches, enfin genre
Toujours le petit mot pour faire
oui.
plaisir.
Toujours, donc voilà, enfin bref, elle m'avait aussi dit genre sur qui je pouvais compter, sur qui je pouvais pas compter selon elle, machin, enfin du coup bon j'essaie de prendre ses directives, de continuer à faire des voyages, donc même si c'est dur, tu vois, j'essaie vraiment d'avancer, après je t'avoue que, en fait c'est vraiment, moi, enfin je pense que les personnes elles vivent leur deuil de manière très différente, mais genre c'est un peu, ça reste quand même un peu bizarre, tu vois, genre de me dire en fait c'est ça ma vie. Parce que genre pour moi c'est, enfin genre ma vie sans ma sœur ça n'existe pas, donc du coup en fait enfin là tu vois ça fera un an le 19 mars, là on est le 2, ça fera un an donc qu'elle est plus là, genre le temps est passé à une vitesse, genre enfin, et en même temps je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, enfin genre c'est un peu du coton en vrai, genre vraiment beaucoup de brouillard, et genre et c'est vraiment en dents de scie, genre en mode il y a des périodes où ça va à peu près, des périodes, enfin même si tu vois genre mon ça va d'avant il était là, mon ça va de maintenant il est là, genre c'est plus du tout le même ça va, mais je dois le dire, tu vois il y a des moments où ça va à peu près, il y a des moments où ça va pas du tout, bon là on est dans une période où ça va pas du tout, et où je pleure beaucoup et où tu vois des fois je regarde des vidéos des trucs comme ça et du coup je me rends compte en fait à quel point genre le cancer ça l'avait changé et tout, en fait moi je m'en rendais pas compte, du coup je m'en veux, et genre beaucoup de culpabilité d'être la personne qui reste. Pourquoi c'est moi? Genre pourquoi? Enfin, genre dans l'ordre des choses. Bon, déjà, mes parents, voilà, ils sont encore plus. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus dévastés, mais genre ils sont dévastés d'une autre
Oui.
manière parce que tu perds pas ton enfant normalement. Mais t'es pas censé perdre ta petite sœur non plus. Donc du coup. Surtout qu'en plus, bah, genre, elle venait juste d'être élue Miss, avec son petit copain, ça faisait genre 5 ans qu'ils étaient ensemble, avec, enfin genre elle venait de commencer son master parce qu'elle avait un peu galéré à trouver les études qui lui plaisaient avant et tout. Et moi je me disais mais moi c'est bon, genre bon même si j'étais au tout début de la relation avec mon copain, mais tu vois enfin en soi j'étais là, moi c'est bon, je suis lancée dans la vie, genre elle vient juste de se trouver et bam le cancer quoi, enfin du coup bon enfin ça voilà ça me saoule vraiment, et du coup bah là enfin après voilà je me raccroche à ça, genre je me raccroche à mon livre, je me dis que je fais des trucs utiles, je me dis que voilà c'est ce qu'elle m'avait dit de faire. Et genre, je pense que ce qui m'aide en soi vraiment le plus, c'est de. J'ai toujours ce truc de vivre dans le futur. Donc, du coup, en fait, c'est pas forcément bien. Ben, pendant la maladie, genre, j'étais beaucoup à anticiper les trucs et tout. Donc, ça, c'est. Enfin, toujours en train de stresser à l'avance pour des trucs. Mais, genre, là, au moins, tu vois, genre, je me dis, OK, il y aura la sortie du livre. Il y aura les dédicaces, il y aura ci, il y aura ça, il y aura mon prochain livre et tout. Et comme elle m'a dit de vraiment continuer à écrire, parce que faut savoir que du coup, elle me lisait depuis que genre j'écris, genre depuis que je sais pas, j'ai 14 ans, ma sœur, elle adorait lire mes histoires et tout. Je me dis, bon, ben voilà, écrire, c'est un truc qu'on s'est dit, donc c'est ce que je fais. Donc voilà, enfin, du coup, j'essaie de voir comme ça un peu plus loin pour faire des trucs, pour planifier des trucs.
Ouais.
Et avancer, me raccrocher à ça, parce que sinon je dépéris quoi. Enfin, vraiment.
Ouais, bah de toute façon, je pense que c'est des étapes, quoi. Enfin, c'est par période,
Ouais.
ça va prendre du temps. Enfin, là, ça fait au moment où on enregistre, du coup, on est le 2 mars, donc ça fait même pas un an. Donc, en soi, c'est sûr que c'est normal que ce soit encore
Ouais.
difficile. Mais en tout cas, c'est hyper courageux de parler d'elle, de faire des. Enfin, ton livre, c'est incroyable en vrai comme projet. Donc,
Ouais.
j'espère que t'es fière de toi quand même.
Oui, enfin, je sais pas.
Il faut
J'avoue.
l'être.
Enfin, après, je sais pas trop si c'est vraiment. Enfin, j'aime pas. En fait, je déteste ce mot courage, en vrai. Genre,
Ouais.
c'est. Enfin, il y a deux trucs que je déteste. C'est ça va.
Mmh.
Pas non, ça va pas.
Mmh.
Et courage, je trouve que ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas. Après, chacun a son truc. Mais tu vois, ma sœur, genre, en soi, je la trouve courageuse parce que, bah, genre, elle a. Enfin, elle a affront. Enfin, en tout cas, moi, ma définition, c'est quand t'as peur de faire un truc, mais tu le fais quand même, tu vois. Donc, je pense que bah, à la fin de sa vie, et puis même avant, genre, tout ce qu'elle a fait et tout, genre, oui, elle avait peur, mais elle le faisait quand même. Moi, là, c'est pas du courage en soi. Enfin, c'est juste, j'ai pas peur en soi, genre, juste, j'essaie d'avancer, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'arrive pas trop à m'associer
Ouais, je peux comprendre.
cette caractéristique, mais enfin, cette qualité, disons. Mais ouais, enfin, en tout cas, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de faire au mieux pour Louise. Et genre, tu vois, on était très fusionnels, très, voilà, à se soutenir l'une l'autre. Donc, je me dis pas parce qu'elle est dans une autre sphère ou plus là que je dois arrêter, quoi, en fait.
Ouais, c'est sûr. Et du coup,
Voilà.
tes projets pour plus tard, c'est quoi?
Bah, du coup, c'est de continuer ça. Enfin, genre, voilà, enfin, j'espère sortir d'autres livres sur d'autres sujets. J'ai beaucoup aimé l'expérience, si on se détache complètement du sujet du livre, j'ai beaucoup aimé du coup utiliser les mots pour dénoncer des choses ou pour sensibiliser à des choses. Donc j'ai pour projet d'écrire un autre livre là que j'ai commencé qui dénonce d'autres choses. Donc enfin, là c'est pas en rapport avec ma petite sœur, mais c'est des trucs que j'ai vécu quand j'étais en école d'ingé. Et puis aussi pour parler des troubles du comportement alimentaire que j'avais eu quand j'étais plus jeune et des violences sexistes et sexuelles, etc. Donc du coup, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé utiliser les mots pour faire ça. Donc ça c'est mon nouveau projet. Et du coup, bah, continuer à écrire et surtout continuer à sensibiliser et à porter la voix de Louise. En fait, enfin, c'est mon premier livre, je trouve qui sort, je trouve qu'il est super significatif. Et même si les autres, ils auront... Tu as d'autres saveurs différentes, parce que là, du coup, en fin d'année, j'ai un autre livre qui sort, qui est une romance lesbienne que j'ai écrite à quatre mains avec une amie. Genre là, tu vois, ça sera plus festif, en soi, parce que c'est un truc qui se passe à la plage.
Ouais, good
Genre,
vibes.
voilà, c'est ça. Du coup, ce sera pas du tout la même sortie. Mais en tout cas, enfin, ce premier livre, moi, je veux qu'il... Enfin, tous, bien sûr, mais je veux dire, celui-là, il a vraiment une saveur particulière. Et du coup, je veux qu'il soit le plus connu possible et qu'il aille le plus loin possible, parce que c'est le livre de Louise, quoi. Donc voilà.
Ok, bah c'est ce que je te souhaite,
Ben,
vraiment,
merci,
je
c'est
te le
gentil.
souhaite du fond du cœur et je suis sûre que ça va très bien marcher. Et effectivement, je pense que c'est un livre qui va vivre hyper longtemps parce qu'en soi, le sujet que tu abordes, il est intemporel. Donc
Oui.
voilà, c'est un très beau projet, donc bravo à toi. Pour terminer cet épisode, je vais finir du coup par ma question signature. Donc, Over the Rainbow, ça veut dire au-delà de l'arc-en-ciel. Donc, c'est une notion d'espoir. Je sais que là, le sujet est vraiment difficile, mais si on doit terminer sur une notion plus positive, inspirante, un mot de la fin, voilà, plutôt plein d'espoir, qu'est-ce que tu aimerais dire pour finir cet épisode?
Bah, du coup, il y a deux choses qui me sont venues, donc je vais dire les deux si tu
Oui, bien sûr.
m'autorises. du coup, je dirais bah, ce que je dis, enfin, comment on appelle ça, la dédicace de mon début de roman, que du coup j'ai vraiment dédicacé à Louise, mais du coup que j'ai aussi dédicacé à toutes les personnes qui se battent contre la maladie. Parce que je trouve que dans la société, on met beaucoup en avant, et ça peut être bien, tu vois, c'est inspirant aussi, mais les personnes qui se disent guerriers, guerrières parce qu'ils vont à la salle de sport, parce qu'ils sont sur les plateaux de télé, parce qu'ils sont connus alors qu'ils venaient de milieux ou pas forcément, tu vois, simples. Je trouve ça hyper bien, hyper inspirant, mais pour moi, les vrais guerriers, les vraies guerrières de ce monde, c'est les personnes qui se battent contre la maladie, tu vois, et qui gardent la tête haute et qui gardent toujours espoir, du coup, en la guérison. Et du coup, ça, c'est hyper important pour moi de faire passer ce message. Et après, deuxième chose, c'est que bon, moi je suis du coup, comme je disais, j'ai fait maths, maths spé, je suis hyper cartésienne. Pour moi, c'était très dur aussi parce que, genre, dans ma tête, tu mourais et voilà. Enfin, en fait, genre, il n'y avait rien après. Je suis pas, enfin, j'étais croyante, je suis plus croyante parce que pour moi, bon, après, c'est un autre débat, mais genre, je me dis pourquoi ça serait arrivé à ma sœur si vraiment il y avait un dieu et tout. Mais bon, ça, c'est chacun. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui voient pas du tout les choses comme ça et c'est ok. Mais en fait, j'ai tellement de signes, genre ma sœur, elle m'avait dit que si je faisais de la merde, je recevrais des trucs sur la tête. Et en fait, c'est vrai, à chaque fois que je fais un truc, je sais qu'elle n'aurait pas validé. Enfin, je le sais au fond de moi, genre je me cogne dans un truc, j'ai un énorme bleu, je me prends des trucs dans les dents. Enfin,
Ouais.
bref, genre je me dis, mais ça c'est sûr, c'est ma sœur qui m'envoie des
Des
pics
petits
de
taquets
là.
comme ça.
Ouais, et ou alors, genre, là, mes parents, ils étaient partis en voyage, hyper compliqué pour eux parce que, ils n'avaient pas du tout la tête à être heureux, à voyager, mais ma sœur, elle leur avait dit vraiment, vous continuez à voyager et tout. Donc, ils sont partis, et genre, tous les matins, ils passaient devant une barque où il y avait écrit Louise dessus en peinture. Enfin, genre, il y a 10 000 prénoms, tu vois, c'est trop bizarre qu'il y ait écrit Louise. Ou moi, hier, là, qui ai fait mon shooting, je l'ai mis sur Insta, le café en face, il s'appelait Louise. Enfin, je savais pas,
Ouais.
tu vois. Enfin, du coup, peut-être que c'est juste moi, en fait, ces trucs pour me rassurer moi-même, mais genre, tu vois, ça me fait du bien et je me dis en fait que voilà, elle est toujours là et qu'elle me regarde faire, quoi.
Trop
Voilà.
bien. Bah merci, c'est une belle façon de finir l'épisode. Merci beaucoup d'être venu raconter ton histoire. C'était un épisode touchant,
Bah,
mais
avec plaisir.
c'était vraiment important de le faire et tu l'as vraiment très bien fait. Et c'est sûr qu'il a fallu, comme tu l'as dit, beaucoup de force à Louise pour traverser tout ça, mais il en faut aussi beaucoup pour toi, pour continuer à avancer et pour réaliser ce beau projet. Donc voilà, comme on l'a dit, même si t'aimes pas le mot courage et tout ça, j'espère que t'es fière de toi et de ce que tu fais parce que tu portes une mission qui est vraiment très belle, donc bravo.
Bah, c'est gentil. Bah, je suis fière de ma sœur en tout cas, donc c'est important.
Ouais, c'est la continuité, on va
Voilà,
dire.
exactement.
Tout à fait. Et merci encore Élise. Et puis merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver du coup le compte Insta, le lien pour le livre d'Élise. Je vais mettre tout ça en description. Pensez à mettre 5 étoiles à cet épisode si vous l'avez apprécié. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous les réseaux sociaux, me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre, pourquoi pas, rien à voir, mais qui s'appelle Qui suis-je, qui est dispo aux éditions Le Duc. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye!